Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais finalement toujours de ce qu'on aime. Est-ce que c'est nécessaire de rappeler que c'est l'émission préférée des gens qui l'écoutent? Je ne pense pas, mais je le fais quand même. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, parce que une émission qui va être dense, très très dense, je pense, parce qu'il y a beaucoup de un sujet vaste auquel il y a beaucoup, autour duquel il y a beaucoup de choses à dire. Parce que quand je dis que c'est une émission dense, ça n'a rien à voir avec Danse avec les Stars, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de bouffe, de métier de bouche, de nourriture, des arts de la table, de tout ça. Aujourd'hui, c'est Gaëtan qui m'accompagne en co-animation, hein, comment dire.
C'est ça, salut.
Salut Gaëtan, ça roule ?
Écoute, ça va.
Pleine forme ?
Comme un lundi,
excellent. L'un de nos invités qui revient tout droit de Nouvelle-Zélande, où il a tondu les moutons et filé la laine, hein, c'est bien ça. Max qui est là, qui... Bonjour Maxime,
salut,
comment ça va ?
Salut tout le monde, ça va ? Ça va nickel, impeccable.
Ouais, donc du coup toi t'es en retour de Nouvelle-Zélande pour présenter un petit peu ton parcours. Tu travailles un peu dans le pinard quand même ?
Je travaille un peu dans le pinard, ça fait 5-6 ans que je travaille dans le pinard. Ça a toujours été une passion, mais ouais. J'ai fait un petit peu de restauration au début, mais vraiment je me sentais un petit peu plus proche du monde de l'agriculture.
Ouais.
Mais forcément il y a des liens très étroits entre l'agriculture et la restauration, forcément.
Oui, forcément. Ouais, donc, puis toi, t'es un mec qui a besoin de te servir de tes mains, de bricoler un petit peu.
Ah,
de,
mais après, dans la restauration, c'est pareil, mais ouais, on va dire que travailler dehors, ça me correspond pas, je pense.
Bon, très bien. Et donc notre autre invité, c'est Fred. Fred Sansporte, comme on peut le voir sur les réseaux. Si je dis pas de bêtises. Bonjour Fred.
Fred est là, oui, merci.
Comment ça va ?
Très très bien, en si bonne compagnie. Oh. Du pain, du saucisson, du fromage, des quilles de vin sur la table. Parfait.
Ouais, parfait, nickel. On est parti pour une petite émission autour de tout ça, tranquillement. Mais on va commencer donc par la première rubrique qui est la rubrique des trois questions, qui comporte combien de questions ?
Deux.
Non. La rubrique des trois questions, combien de questions ?
Combien de questions, comment ça ?
Dans la rubrique des trois questions.
Et deux ?
Non.
Non, allez, je vais le dire du coup, quatre.
Eh oui. Il y avait vraiment un piège. C'est terrible. La première question, c'est quoi le dernier truc que t'as lu, vu, écouté ou maté ? Et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Donc littéralement, le dernier truc que vous avez consommé. C'est Gaëtan, tu veux commencer ?
Ouais. Moi, le dernier truc que j'ai regardé, c'est une série sur Netflix. C'est Pax Massilia, c'est une série française.
Pax Massilia ?
Ouais. C'est une série française tournée à Marseille, du coup.
D'accord.
Sur, en gros, un trafiquant de drogue de Marseille et une espèce de tueur à gages qui se font un peu la guerre avec des flics. Et franchement, c'est une série française, mais plutôt bien.
D'accord.
Franchement, il y a 6 ou 7 épisodes, c'est une mini-série, donc il y aura peut-être une suite, mais c'est pas sûr. Mais voilà.
Il y a des gens qu'on connaît dedans ?
Non, il n'y a pas d'acteur spécialement connu, non.
Non.
Non, non. Mais franchement, c'est une série très bien. Pour une série française, j'ai trouvé qu'ils sont bien démerdés, quoi.
Ouais, ouais. Ils ont réussi
les Français se démerdent de mieux en mieux, je trouve, en série, en termes de films aussi, enfin... Mmh. Commence enfin à faire des choses qui sont pas mal.
Ouais, ouais, puis là, il y avait le Règne Animal, tu l'as vu ?
Non.
Un film de science-fiction.
Non, j'ai pas
science-fiction fantastique, qui est très bien.
Ok. Après, il y a une autre série aussi en ce moment française qui fait un gros carton partout dans le monde, c'est Fury.
Ouais.
Avec Marina Foïs. Alors, je suis en train de la regarder.
T'as commencé ?
Ouais, j'ai regardé 2 épisodes là tout à l'heure, mais j'ai pas.
Ok. Moi, j'ai regardé les 10 premières minutes, je crois.
Ouais, t'as pas aimé ?
Non, je me suis endormi. Enfin, il était tard.
Ah oui, après, ouais.
Je vais essayer ça. Je me suis posé dans mon lit, terminé.
Ouais. Mais ouais, ça fait un carton, et même à l'étranger, quoi. Donc, à voir ce que ça donne.
Ok, trop bien. Max ?
Le dernier truc que j'ai consommé, j'ai pas trouvé ça dingue, mais c'était sur Netflix, le... Avatar, le dernier maître de l'air, l'animé.
Ouais.
Je sais pas si vous avez vu.
L'animé ?
Non, justement, le. Comment, je sais plus comment on dit.
Live action.
Ouais, tout à fait. Qui est sympathique, mais j'ai pas non plus. J'ai tout regardé, par contre. Mais on va dire que ça m'a fait rappeler à quel point j'aimais le dessin animé, quoi.
Je suis d'accord. T'es aussi Gaëtan, t'es un fervent défenseur de.
Oui, après j'ai pas regardé, je connais pas du tout en fait ni l'animé, j'ai pas regardé la.
Commence par l'animé alors.
Ok.
L'animé est dingue.
D'accord.
Ouais, l'animé est vraiment dingue. Ouais.
Je connais pas du tout.
Il est étonnant parce qu'il a aucun sens d'exister là où il existe. Enfin, en gros c'est une production américaine par Nickelodeon qui a un côté japonisant dans l'animation, qui met beaucoup en avant les cultures asiatiques, ce qui n'était pas du tout à la mode en fait aux États-Unis à ce moment-là, et avec un vrai truc. truc, il y a un vrai truc philosophique derrière qui est vraiment pas mal.
Ouais,
et
puis sans cliché, mine de rien. C'est ça. Fait par des Américains. Ouais. Tu vois, ça pourrait être plein de clichés.
Non, mais il a pas de. Enfin, je comprends pas comment ils ont fait ça.
Ouais.
Tu vois, comment il y a un mec qui a validé, on va faire 4 saisons de ce truc-là. Alors que.
C'était vachement assez mature, mine de rien. Quand tu dis que ça devait passer entre 2 épisodes de Bob l'éponge, tu vois,
c'est assez drôle.
Après les rages que j'ai été Bob l'éponge.
J'adore Bob l'éponge aussi. Mais j'irai pas voir le live action non plus.
Ceci dit, une éponge, il faut en trouver une qui joue bien. Toi, Fred, c'est quoi le dernier truc que tu as?
Alors, le dernier truc, mais en fait, j'avais préparé un petit bazar, mais je me suis planté parce que je n'ai pas compris dernier. Mais il faut dire que tu pars très vite hein, quand on se rencontre pour la première fois.
Non, mais parce qu'en fait, c'est pas la question que je t'ai demandé de préparer, c'en est une autre.
C'en est une autre. Oui. Alors,
ça, c'est une question en plus.
Au débeauté, un film qui est passé sur Arte il y a quelques jours qui s'appelait Les Passagers de la Nuit.
D'accord.
Avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuel Béard, entre autres, qui démarre dans les années 80 et qui raconte la vie de cette femme jouée par Charlotte Gainsbourg qui va travailler pour une émission de nuit. À la radio.
D'accord.
Et donc, beaucoup de sensibilité, un très joli traitement des personnages. Oui, le film charmant, quoi. Ouais. Léger, doux.
Bah, déjà porté par deux actrices qui sont quand même.
Tout à fait. Et malheureusement, donc, je n'ai pas le nom de la réalisatrice. C'est une réalisatrice, ça me semble. Mais voilà, le truc où t'es content.
D'accord.
C'était léger après.
Comment t'as dit que ça s'appelait ?
Les Passagers de la Nuit.
Les Passagers de la Nuit, ok. Très bien. Il doit être encore sur France TV
sur
Replay,
France TV,
là.
Je pense.
Arte, ce me semble.
Ouais, mais du coup,
Tu sais, après de les mettre sur Internet, les films qui passent,
Ils
les laissent dispo une semaine, 10 jours.
Je connais quand même un peu les plateformes, malgré mon grand âge. Merci de le rappeler.
Non, mais je te le dis à toi, parce que pour aussi des gens qui nous écoutent, s'ils veulent aller le chercher, des fois, parce
Vous avez compris à l'EHPAD. Merci.
Non, mais je pense à mes parents. Donc, du coup. On en était où? Moi, c'est Baldur's Gate 3, qui est un jeu vidéo.
D'accord.
Qui est tiré de Donjons et Dragons. C'est vraiment le même fonctionnement de Donjons et Dragons, mais en jeu vidéo. C'est hyper narratif, hyper tactique, hyper bien. Je suis en vacances cette semaine, on m'a prêté une PlayStation 5 pour que j'y joue. Donc, je vais passer une semaine à jouer à ça. Entre autres choses, mais l'idée est là, super bien, ça a été le meilleur jeu de l'année 2023, et je comprends pourquoi, parce que vraiment, trop bien, mais chronophage, tu sais, c'est ces jeux où il faut 300 heures pour les finir.
Ouais. Pas pour moi.
C'est bien quand t'as qu'une semaine, quoi.
Ouais, voilà.
C'est des trucs, après, tu t'as vite fait de perdre 2 mois de ta vie sans t'en rendre compte. Très bien, du coup, là, parmi les questions que je t'avais demandé de préparer, Fred, du coup, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et
alors,
peut-être ça, tu l'avais préparé.
Un petit peu. Parce que c'est surtout la question sponsorisée par Alka-Seltzer et Paracetamol et associés.
Ouais.
C'est compliqué, ça fait une sacrée mise en abîme, quoi. Se retourner, se dire, merde, qu'est-ce que j'ai fait première fois, la dernière fois.
Petite gymnastique. Hein.
Et donc, la nature a bien fait les choses. J'ai vu une Citelle torche-peau. Qui est un oiseau que je n'avais jamais vu.
D'accord.
Qui est magnifique, avec un dos bleu-gris, les ailes bleu-gris, un ventre jaune-orangé, une petite barre sur la tête noire, comme les maisons charbonnières.
Ah oui, c'est beau.
Et qui a la particularité de qui s'accroche au tronc et qui l'arpente tête en haut, tête en bas. Oui. Tête en haut, tête en bas. Et en allant livrer un plat chez un ami, dans son jardin, il y a un couple qui vient la journée. Becter un peu. Et voilà, cet oiseau, je ne l'avais jamais vu par ici. Donc, cela a égayé ma journée.
Ouais, je comprends. ça ressemble un peu à une mésange, quoi.
Oui, ouais. Tout à fait.
Tu t'y connais un peu en oiseau, t'aimes bien ça?
J'aime bien, oui. Après, je m'y connais, non, je ne suis pas ornithologue non plus.
Ouais, mais tu prêtes attention, quoi.
Oui, ben. En habitant par ici, surtout où j'habite à Chomely, ça serait vraiment dommageable
de pas
lever un petit peu les yeux, quoi, tout simplement. Et j'aime beaucoup, beaucoup les corvidés.
Ouais.
Les corneilles, les corbeaux sont mes amis. Voilà.
C'est joli.
C'est joli, ça fait chier les gens.
En plus. En plus, donc c'est top. Est-ce que tu trouves qu'il y a moins d'oiseaux qu'avant ou pas? Tu vois, parce que c'est un truc qu'on entend souvent. Moi, j'ai du mal à identifier, par exemple.
Mais pareil, j'ai eu un peu de mal parce que Non, c'est pas quelque chose que tu fais, je m'y intéresse vraiment parce que maintenant j'ai un peu plus de temps par mon activité et donc j'ai plus de temps pour voir et pour me promener un peu, mais probablement c'est comme les insectes, on le sait très bien, moins de haies, moins d'insectes, moins d'oiseaux.
C'est exactement.
Ok, très bien. Max, c'est quoi
Moi, ça va être moins intéressant.
Et que tu reviens de Nouvelle-Zélande.
La chose que j'ai faite pour la dernière fois.
Oui, mais bon, exotique, si tu veux.
Écoute, j'ai pas eu beaucoup de temps à réfléchir, mais j'ai conduit une pelle mécanique la semaine dernière.
C'est
la première fois que j'en utilisais une.
D'accord.
Donc, je pense que là, je vais revendre ma voiture et je vais m'acheter une pelle.
Franchement,
ça évite pas mal de problèmes, tu vois, de bouchons, de ce genre de choses. Je pense que...
C'est pas compliqué à prendre en main ?
À prendre en main, non. À maîtriser, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quand tu vois dans les chantiers, le gars qui...
Ils sont au centimètre près, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. J'étais plutôt au mètre près, moi.
Ce qui est déjà pas si mal.
J'ai rien cassé. C'est déjà une victoire.
Ok. Trop bien. Gaëtan, toi, t'as quelque chose ?
Oui, j'ai quelque chose. Bah, vu qu'on fait une émission un peu sur la bouffe, moi, la première fois que j'ai fait quelque chose pour la dernière fois, c'était un civet de lapin.
Ah, voilà, yes.
C'était mon papa a des lapins, en fait, et j'avais des invités. J'ai dit, bah tiens, je vais tenter de faire ça.
D'accord.
Je l'ai fait en civet et en rôti, les deux.
Et donc, voilà. Comment tu l'as fait ? C'est ton père te l'a filé
Mon père me l'a vidé, me l'a prédécoupé parce que moi, je ne sais pas faire ça.
Ça.
Et après, je l'ai cuisiné dans une cocotte en fonte avec du vin blanc, toutes les herbes qui vont bien.
Okay.
J'ai servi ça avec des pâtes fraîches et m'avait laissé de côté les plus belles parties du lapin pour le faire en rôti parce que tout le monde n'aime pas le civet. Vu que j'avais des invités, je me suis dit bon. Donc, j'ai fait un petit rôti, un petit lapin à la moutarde et aux olives après à côté de ça au four. Et...
Faut pas hésiter à nous inviter à bouffer.
Voilà, c'était la première fois que je cuisinais un lapin et au final tout le monde a bien aimé, même des gens qui n'avaient jamais aimé le lapin.
Ouais.
Après j'ai évité de dire que dans le civet j'avais mis le sang du lapin. Je l'ai dit à la fin.
Ça fait un peu...
Le sang du lapin ?
Ouais, dans le civet. Ouais. Okay. Il faut le sang du lapin, du vin rouge et du chocolat.
D'accord.
C'est ce qui va permettre la sauce d'épaissir.
Ouais, okay, voilà.
D'accord.
Parce que j'ai dépecé une fois un lapin, il me semble pas avoir...
Gardé le sang ? Après, tout le monde le met pas, il y en a qui craignent le sang. Après, c'est pour ça qu'il faut mettre du chocolat aussi dedans pour casser l'amertume.
J'ai bien cassé l'amertume.
Du sang.
Ok, c'est très bon à savoir.
Je savais que dans le gibier, il faut en mettre du chocolat. C'est pas mal, ça vient.
Il faut pas en mettre beaucoup, un carré de chocolat.
De carreaux.
Que, très franchement, j'ai une fois du coup j'ai mangé un lapin, j'ai dépecé de A à Z. Je m'attendais pas à ce goût fort du lapin. C'était un lapin sauvage. C'était un endroit où je travaillais dans le sud de la France où on avait des gros problèmes de lapins dans les vignes. Donc du coup, on a fait appel à un louvetier pour faire un petit nettoyage entre guillemets. Et au final, il a fait un gros nettoyage et il avait sur les bras une cinquantaine de lapins.
Ah ouais, à ce point-là.
À ce point-là.
Après, il était fort parce que c'était un lapin sauvage. Donc,
exactement.
Je m'attendais pas à lapin de
l'âge. Ce n'était pas un lièvre.
Non, c'était pas un lièvre.
Parce que là, la chair est beaucoup plus forte. Bien sûr.
C'était pas un lièvre.
Donc, d'où ton joli manteau en peau de lapin que tu as
sorti. Écoute, pour le recyclage, ce genre de. C'est vrai qu'ils n'avaient rien demandé, mais ils étaient là, quoi.
Bon, trop bien.
Et toi du coup ?
Et moi du coup, moi c'est ça va vous paraître peut-être un petit peu moins passionnant, mais moi ça m'a beaucoup plu comme exercice. En fait, j'ai changé de boulot il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et donc on a monté un service machin, et donc là on arrive où les financeurs ils veulent avoir un petit retour sur ce qu'on fait, et du coup il a fallu que je fasse un bilan d'activité, que je fasse des stats, extraire les données, les interpréter, les mettre en valeur de façon à ce que le service soit mis en valeur. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait à faire, de l'exercice de dire ben qu'est-ce que je vais chercher, tu vois, parce que en fait on n'a pas brassé un gros volume par rapport à ce qui était attendu. Donc du coup, comment faire ressortir la qualité plutôt que la quantité et arriver à travailler là-dessus. Je trouvais ça hyper intéressant, c'était très cool.
Donc c'était vraiment bien la question, sponsorisée par le cassette d'air.
Une recommandation culturelle pour nos auditeurs, un truc que vous avez aimé, un bouquin, un album, un film, une série.
J'aurais pas de recommandation précise. Par contre, j'ai découvert, ça fait déjà quelques années, mais je recommande aux gens qui sont pas férus de lecture ou qui ont beaucoup de mal à lire comme moi, les livres lus.
D'accord.
Parce que vraiment, ça m'a permis de découvrir des... Enfin, de pas de lire du coup, mais d'écouter des livres que j'aurais jamais lu.
Ouais, t'aurais jamais pris le temps de les lire, quoi.
Ouais. Donc franchement, c'est...
C'est des trucs genre Audible, les choses comme ça, là.
Ou sur Audible, t'en as énormément sur YouTube, des gratuits.
D'accord.
Audible, c'est... ça reste payant.
D'accord.
Je crois que c'est même assez cher, ça doit être un truc comme 10 euros le livre. Mais t'as quasiment, pas tout sur YouTube, mais disons que t'as... les incontournables culturels sur YouTube.
Ouais, t'as Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, les trucs comme ça.
J'ai jamais vraiment lu parce que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à lire.
Ouais.
Et
du coup, c'est une bonne alternative, quoi.
Franchement, c'est une très bonne alternative. Et mine de rien, bah, je pense que comme la lecture, tu commences avec. J'ai commencé avec Harry Potter, tu vois. Et le dernier truc que je me suis fait, c'est un livre d'Albert Camus, tu vois.
D'accord.
Par exemple.
Ouais.
Donc vraiment, ça
t'amène. Donc t'as évolué en fait dans ta consommation.
Exactement, ouais. Mais je pense que c'est la pratique qui te fait évoluer dans, dans la consommation. Mais si tu t'y mets jamais, forcément, tu. Voilà.
Pour les gens qui font beaucoup de bagnole par exemple, quand t'as 40 minutes le matin, 40 minutes le soir,
t'en as plein des moments comme ça.
Ça, tu peux te régaler.
Il y a les moments, moi qui peux faire un travail un petit peu répétitif des fois, par exemple la taille de la vigne, un livre lu, c'est parti.
Tu mets des écouteurs et c'est parti.
Pendant 8 heures sans souci.
Oui, c'est vrai que c'est un super support. Hein, et dès le plus jeune âge, pour les enfants aussi, où il y a vraiment pléthore d'offres.
Je pense pas qu'il faut que ça remplace la lecture pour des gens qui aiment lire. Mais je dirais plutôt pour les gens comme moi qui ont des difficultés à lire et qui n'ouvriront jamais un bouquin d'eux-mêmes, quoi.
T'as un avis là-dessus, Gaëtan? Toi, tu lis beaucoup de bouquins.
Ouais, moi, je lis beaucoup. Enfin, je lis assez de bouquins, j'aime beaucoup ça. Après, moi, je suis complètement d'accord. Les gens qui ont du mal à lire, et il y a plein de sortes maintenant de lire des livres, que ce soit numérique, en audio, il faut le faire, quoi. C'est pareil, tu disais qu'avant, t'as appris à lire avec Harry Potter. Moi, ce que je trouve, c'est que au collège, tout ça, il y a des classiques de la littérature française qu'il faut lire, on est bien d'accord, qu'il faut connaître. Mais ils font lire aussi des livres, enfin, ils donnent pas envie forcément aux jeunes de lire.
Il y a un petit manque de pédagogie.
C'est ça, ils donnent pas forcément, il y a des livres tellement bien qu'on pourrait faire lire aux adolescents, et ça, je pense, ça leur donnerait le goût à la lecture.
D'accord.
Après, c'est sûr, des Molières, toutes les choses comme ça, il faut les lire, il faut les connaître, ça fait partie de...
Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va créer ton appétence,
j'ai adoré lire Le médecin malgré lui, non.
Non, avec ça, 400 ans, ça vieillit.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ça, moi, que je regrette un petit peu. Je me dis, en fait, on donne pas forcément envie aux gens de lire, surtout aux jeunes gens.
Mais tu sais, je trouve qu'il y a le même problème avec le théâtre.
Oui, c'est un peu pareil.
Dire à l'école, au théâtre, on t'emmène voir des pièces, mais qui sont chiantes comme la mort, quoi. Et comment tu veux, après, que les gens ils aient envie de retourner au théâtre, si à chaque fois que tu y vas, tu passes 3 heures à t'emmerder.
Ah, c'est ça.
Tu vois, c'est pas possible. Et c'est terrible, parce que c'est aussi une super activité, tu vois.
Carrément.
Oui, c'est le problème, même au niveau de l'éducation nationale, ils font pas bander les gamins.
Non,
alors bien sûr, il faut l'apprentissage de textes classiques pour la sémantique, pour la syntaxe, etc., etc. Donc tu en as, mais il faut placer des choses qui les fassent triper un peu, les nains.
C'est ça.
Ma fille, qui a 16 ans, moi j'ai 50 ans, en première, elle a encore des œuvres que j'ai étudiées.
Voilà, c'est ça. Faut...
Ok, les gars. Bon, peut-être passer un peu
Madame Bovary toujours là, quoi.
Mon Dieu. Ouais. Nous, d'ailleurs, Madame Bovary, Ponote, grande cité bovarienne. Oui.
Et moi, il y a juste pour rebondir, j'ai eu deux idées, donc je vais les développer un peu. La première, c'est on parlait dès le plus jeune âge. C'est toi, Fred, qui disait dès le plus jeune âge, peut-être pour les gamins.
Tout à fait.
Il existe un truc qui s'appelle une Tony Box. C'est une espèce de boîte, une petite enceinte. Et en fait, tu mets, t'as des figurines. Tu vois, et le gamin, il met la figurine sur le socle. Et du coup, ça raconte l'histoire qui est attitrée à la figurine. Et du coup, ça leur permet de choisir ce qu'ils veulent entendre comme histoire, sans passer par un support qui est... sans passer par un écran, en fait. Ce qui évite le piège, en fait, quand t'apprends au gamin à servir des écrans, c'est qu'après... Et là, justement, c'est une bonne alternative à ça. Il peut choisir un peu l'histoire qu'il veut écouter. Il peut aussi choisir la musique qu'il écoute. Et je trouve que ça, c'est pas mal du tout, comme truc. Et moi, par contre, avec les livres audio, j'ai un problème, c'est que moi, je suis incapable de lire un livre sans sauter des pages. Enfin, tu vois, il y a des pages que je lis en diagonale, tu vois, parce que ça va être description très longue, j'ai compris que c'est un arbre, tu vois. Et du coup, je fais des allers-retours, tu vois, sur les pages, je lis pas linéairement. Et du coup, sur les livres audio, ça correspond pas à ma façon de lire.
Tu sais que sur YouTube, quand tu cliques une fois, tu peux,
peux
aller un petit peu
mais d'avant. Mais du coup, enfin. Si tu parcours la page un peu comme ça, tu vois les mots, tu fais des allers-retours. Enfin, je sais que je lis comme ça. Après, peut-être que c'est un peu non académique comme façon de lire, peut-être. Mais du coup, c'est pour ça que moi, le livre audio, je suis pas un bon client. Je conçois que ce soit vraiment bien pour beaucoup de monde. Moi, je suis pas du tout client de ça, quoi.
Ouais, après, moi, le livre audio, j'en consomme quand je fais mon sport. Ouais, quand je fais des fois mon ménage ou le soir avant de me coucher, de dormir.
T'arrives à faire du sport en écoutant un livre audio.
Et ouais. Après, j'écoute pas les. Souvent, j'écoute, ben, comme tu disais, les Harry Potter et choses que voilà que je connais déjà. Mais ouais, j'arrive à écouter des livres audio.
La dernière fois, c'était les frères Karamazov. Il a couru 250 km.
Alors, là, il va attaquer la Bible.
Par exemple, les livres chiens à lire en livre audio. Ils peuvent paraître
ils sont un peu moins chiants.
Voilà. Ouais, c'est un peu moins compliqué.
Après, la voix, il fait pour beaucoup.
Ah oui, oui,
c'est comme un film, l'interprétation, etc. La voix, il fait pour beaucoup.
Ah oui, c'est sûr.
Oui, et puis c'est là, sur cette période, sans faire le vieux con, où c'est vrai qu'on se laisse moins le temps aussi. Il y a tellement de choses à droite, à gauche, l'attention est captée, qu'on lit moins, donc c'est. Ou alors faire comme moi, il ne faut pas dormir.
Oui, voilà, après.
Vous verrez quand vous verrez, quand vous aurez mon âge. On dort moins, les gars.
Oui, il paraît qu'on dort moins. Bon, on dort.
Après,
ça nous laissera un peu plus de temps.
Après, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de lire, c'est pas forcément vrai.
Oui.
C'est qu'ils ne le prennent pas.
C'est que tu ne le prends pas.
C'est ça.
C'est sûr.
À un moment donné.
Ça, c'est comme faire à manger. Voilà. J'ai pas le temps de faire à manger.
Non, ça, c'est une connerie.
Tu pourrais t'acheter un kilo de patates et.
Voilà.
Tu vois, faire à manger quelque chose de bon, on fera en un quart d'heure.
Ouais.
C'est fait, quoi. Carrément. On fait un quart d'heure, tu le laisses mijoter 20 minutes si tu as besoin de cuisson. Mais en fait, ça prend pas de temps. Mm-hmm. Mais c'est juste.
Il faut le prendre, quoi.
Il faut
se
motiver, quoi.
Voilà. Au lieu d'être devant la télé, ben.
Voilà. Dégageons-nous des faux besoins qu'on nous met dans la tête et
dès la naissance. Exactement. Et élevé dans un ordre.
Et après, il y a le méchant, c'est le royaume des insectes, je crois. Ça, et voilà. Et c'est une série fantastique. Moi, j'avais découvert quand j'étais adolescent que mes parents m'achetaient le livre au fur et à mesure, quoi. Et j'avais beaucoup aimé.
Ça, c'est un bouquin. Moi, je me rappelle, mes parents m'en achetaient un. Je le lisais en deux jours.
Ouais.
C'est des trucs, ça se. Quand tu l'attaques, quand t'es jeune, là, que t'as l'imagination qui travaille encore, en train de se construire.
Ouais, carrément.
Ça part tout de suite. Tu devrais essayer, Max. En livre audio, ça doit exister.
Alors, par contre, c'est pas français, c'est québécois, je crois. Ou
ouais, les québécoises.
Québécoises, ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, donc les Chevaliers, et c'est en 12 tomes. Après, il y a la suite.
Ouais, il y a plein d'autres.
Mais vraiment, les Chevaliers d'Emeraude, c'est en 12 tomes.
Elle écrit beaucoup, cette dame. Ouais, c'est incroyable. Elle a dû écrire peut-être 50 bouquins, au moins 50 bouquins dans sa vie, alors que. Elle doit pas avoir 50 ans, quoi.
Oh non, elle est. Non.
Ça fait beaucoup de.
Ok,
voilà.
Trop bien.
Donc, voilà pour les parents ou les adolescents qui nous écoutent et qui aiment bien lire ou découvrir quelque chose.
Tu m'as débloqué un souvenir.
comme la dernière fois avec l'apprenti éponteur.
Ouais, c'est ça. Ça fait 15 ans que j'avais pas pensé à ça. Trop bien.
Trop cool.
Fred, t'as une petite reco culturelle, toi ?
Oui, un petit combo d'une même maison d'édition qui date un peu maintenant, Casterman Écriture.
Ouais.
Avec deux mangaka, un coréen qui s'appelle Kim Dong-hwa,
d'accord,
qui a écrit notamment, c'était en trois tomes, Histoire couleur terre.
D'accord.
Ça se passe en Corée, c'est l'évolution, l'ouverture à la vie d'une jeune fille coréenne dans la campagne, donc fin du 19e, début 20e, un peu pour reprendre le fil. Des passagers de la nuit, c'est très fin, très délicat. Le graphisme est très, 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 très beau. On parle de nourriture paysanne coréenne. On voit aussi les évolutions sociétales. Donc, vraiment un très, très, très beau manga. Donc, alors, sur Casterman, ils l'ont publié, lecture française. Mmh. Et dans la même sur la même collection, il y a bien sûr le mythe Jiro Taniguchi, si ça vous parle un peu, avec sur la nourriture le gourmet solitaire, l'homme du Caucase, l'homme qui marche. On est toujours sur la même veine. C'est fin, c'est intelligent. Les dessins sont très très beaux. Taniguchi avec très peu de mots, mais il y a beaucoup. C'est très littéraire en même temps, mais avec très peu de mots, il dresse la situation, l'ambiance, les ressentis. Et voilà, ces deux petits trucs sont ces deux petits trucs. Ces deux gros auteurs et ces jolies œuvres, c'est vraiment très 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 sympa. Et puis, on peut accoupler une auteure américaine mais d'origine japonaise, là vraiment en roman, qui s'appelle Aki Shimazaki.
D'accord.
Ce sont des petits livres très courts, mais on, voilà, on a la même relation avec les deux autres auteurs que j'ai cités, d'une finesse époustouflante, d'une D'accord. justesse sur les sentiments absolument fantastique.
Quelque chose qui va un peu doucement, j'ai l'impression, quand tu le racontes, enfin, un truc qui oui, prend son temps.
Un peu comme mon temps, vous allez bientôt vous endormir.
Non mais tu vois, un peu aux antipodes de justement ce qu'on nous propose aujourd'hui, qui va toujours très vite, qui est toujours très puissant, très spectaculaire.
Oui, donc on en est sur de la contemplation ouais. aussi. Donc il va très bien avec la mentalité asiatique des Samoriens.
C'est pour le coup, ça c'est un truc qui peut être lu par des amateurs de manga qui seront pas perdus, mais Exactement. Aussi par des gens.
Voilà, vraiment dès l'adolescence, on peut lire cela.
Très bien.
Okay.
Voilà, conseillé.
Trop cool.
Très bien. Et toi du coup ?
Moi je vais parler de faire un peu d'actu Dune. Ah, oui. les deux films qui sont sortis de Denis Villeneuve. Et en fait tout l'univers qu'il y a autour qui est en fait passionnant, que moi je connaissais pas du tout.
D'accord.
Et j'ai regardé le premier film de Denis Villeneuve qui m'a mis une vraie mandale, quoi. Où je me suis dit, putain, en fait on peut faire des beaux films avec du budget et qui sortent des schémas classiques de narration. C'est ça qui, moi, j'ai trouvé le plus intéressant dans le premier, c'est de prendre son temps, de passer 30 secondes sur une souris qui court dans le désert. Sur un film qui coûte 400 millions, normalement les producteurs ils disent non, quoi. Et qu'il ait eu cette liberté là d'amener ce truc un petit peu pareil dans l'imagerie, un peu glauque, un peu travaillé, enfin, où tu sens aussi l'influence de David Lynch. J'ai regardé quelques extraits du film de David Lynch et tu sens qu'il y a un gros héritage qui arrive quand même, qui est gardé, qui est pas bafoué. Et là j'ai été voir le deuxième au cinéma, mais j'ai pris une expérience sensorielle, quoi. C'est-à-dire qu'avec la musique, les bruits, il y a un moment c'est très coloré, puis d'un coup ça passe en noir et blanc, la musique change totalement, toute l'ambiance change, et en fait mon corps s'est rétracté, quoi. Et du coup ça m'a beaucoup plu de vivre ça, donc je conseille aux gens de s'intéresser à Dune. Beaucoup de gens ne n'aiment pas le film parce qu'ils le trouvent trop mou.
Parce qu'on est plus habitué à regarder des films comme ça aussi.
Ouais. Je dis,
au-delà de mou, je dirais long.
Ouais.
C'est le petit truc qui m'a. C'est comme.
Oui, mais est-ce que c'est une mauvaise chose ?
Non, je dis.
Tu vois,
c'est pas une mauvaise chose.
Mais tu vois, c'est compliqué.
T'as sûrement raison qu'il faut le voir au cinéma. Je sais pas si je suis prêt de passer 3 heures au cinéma.
Tu prends une bouteille d'eau.
Ouais. Je crois que j'ai donné une quille de vin juste avant.
Mais pour le coup, elles passent là. Moi, elles sont passées en 20 minutes, quoi.
Ok.
J'ai vraiment. C'est tellement dense, en fait.
Ouais.
Il se passe toujours des choses. Tantôt c'est des intrigues politiques. Tantôt c'est le côté un peu messianique où ils montent en puissance, religieux. Et puis après c'est un peu des combats. Et après ça va être plutôt de la mise en place d'attentats, des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de prismes qui sont explorés et moi j'ai trouvé ça vachement bien.
Oui, et surtout il respecte complètement l'univers de Frank Herbert. Parce que moi j'ai lu les 7, les gars.
Ouais.
Ah, ouais. Je les ai relus, les gars. Voilà. Et le respecte complètement. Et surtout ça rattrape un peu parce que bon, Lynch c'est Lynch, hein, énorme, mais le Dune de David Lynch alors si toi t'es pas non plus sous LSD ou extra, c'est très compliqué.
Moi je l'ai pas vu, mais c'est un peu les retours qu'il y en a où il y a quelque chose d'assez indigeste, et en même temps moi je vois pas comment ce mec là il a fait pour faire tenir en 2 heures de film cette histoire là c'est impossible de la faire rentrer.
Oui,
à moins de mettre des grands coups de marteau dans tous les éléments, quoi.
Et puis surtout à l'époque t'avais pas les mêmes moyens techniques. Non, je dis, il était sous acide non-stop, quoi. Le moineau.
moi je pense là Dune 2 à mon avis il rafle la moitié des Oscars.
Ah ouais.
Décor, costume, musique, photographie, direct c'est sûr. Réalisation je sais pas, faut voir ce qui arrive, parce qu'il y a pas la patte de Denis Villeneuve qui est un peu toujours là, mais il y a pas de vrai parti pris virtuose dans la réalisation, en tout cas il y a rien qui m'a attrapé là-dessus. Mais ouais, décor, costume, musique, c'est dingue. Après ouais, les acteurs sont très bons, tout est très bien, donc allez voir ça, regardez-le, je le conseille. Bon, on a fait le tour de cette question là une petite question un petit peu en rapport avec la suite de l'émission. Quel est votre plat signature, messieurs, si vous en avez un?
Alors je commence.
Vas-y.
Non. Définitivement non. J'ai pas de plat préféré, je n'ai pas de plat signature, parce qu'il y a un milliard de plats. Ouais. Tout est bon quand tu le fais, même si tu n'es pas doué, si tu le fais avec plaisir, avec un peu d'application. Et donc Donc c'est la réponse, c'est la question où il n'y a pas de réponse pour moi.
Alors, est-ce que peut-être je peux la reformuler pour essayer ?
Essayons.
Quel est le plat que tu prends le plus de plaisir à cuisiner ?
Un milliard de milliards. Je ne lâcherai rien.
Très bien.
Ça m'est impossible.
Très bien. Ça
désolé.
Comme réponse. Il n'y a pas de souci.
Bon, sinon, allez, petite, allez, on va dire les gnocchis.
Ouais, les
gnocchis. On en a parlé tout à l'heure. Je sens petit très alléché.
Mais moi, j'en fais. Je l'ai fait aussi, si tu veux. J'adore ça. Je trouve ça amusant à faire.
Ouais,
je trouve que quand tu les mets dans l'eau et qu'ils se plourent comme ça, ça me plaît beaucoup. Il enfin, y a un truc, c'est quand tu le cuisines, c'est visuellement, c'est cool au niveau des textures, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien.
Donc, oui, voilà. Tout doux, réconfortant. Ouais.
Max, toi, t'as un truc.
La signature.
Parle dans le micro. Dans le micro, s'il te plaît.
Pardon.
Max. Ah oui. Ah oui, on fait un podcast.
Et oui, tout à fait. Oui. Il marche le micro ?
Ouais, il marche.
Non, du coup, que je prends le plus plaisir à faire.
Ouais, enfin, le plat, le plat que. Alors, tu vois, ton.
Le plat simple que je dois faire, on va dire, en hiver. Une fois par semaine, c'est le pot-au-feu.
Ah ouais.
Okay. La simplicité, le goût, de dire ouais. C'est voilà. Ça prend 10 minutes à faire et ça permet de manger des légumes très facilement ouais. aussi. Après, si on est plutôt en été, mon petit péché, c'est les crevettes au pastis.
Ah ouais.
Crevettes flambées au pastis, ça
tu
c'est
les flambes, ouais, c'est ça.
Je les flambe, ça c'est mon petit reste ouais. de quand j'ai fait mon bac pro télé restauration. C'était un des plats sur lesquels on avait une épreuve.
D'accord.
Et je l'ai toujours gardé.
Ouais, tu le gardes
ouais.
en poche, quoi.
Ouais.
Trop bien.
Ouais, quand j'ai une petite soirée romantique, c'est mon petit joker. Et
je comprends. Toi, Gaëtan ?
Pas un plat signature, mais un plat que j'aime bien faire, et parce qu'il est super facile à faire, il est super bon, c'est les lasagnes.
Ah ouais.
Dès qu'on a un peu, enfin, ouais. j'ai du monde, je vais faire des lasagnes parce que tout le monde aime, c'est super ouais. bon quand c'est bien fait, que t'aimes de la bonne viande, des bons trucs, c'est rapide à faire.
C'est un peu le tips, les lasagnes, pour les gens qui aiment pas trop cuisiner,
ouais,
ou qui pensent ne pas savoir cuisiner.
C'est ça.
Et où t'as un vrai plat où les gens se disent putain, ça envoie.
C'est le lasagne. Voilà,
oui, et puis on va pas se mentir non plus, ça permet de passer toutes les merdes qui restent au frigo, là, qui courent encore tout seul. Mais hop, en loose comme ça.
C'est ça.
Et puis franchement, tu sais, t'as du monde comme ça, tu sers ça avec une salade. C'est très bien, ouais. tout le monde aime,
c'est efficace,
y a pas
ça
de
marche
problème.
À chaque fois.
C'est vraiment, c'est pas forcément la signature, mais c'est le plat que j'aime bien faire
okay.
de temps en temps, des
trop
lasagnes.
Bien.
Quoi.
Super, cool.
Et toi, du coup ?
Oui.
Moi, je pense que c'est le bœuf bourguignon parce que j'adore. En fait, j'adore toutes les étapes du truc. Découper la viande, c'est un truc que j'aime bien faire. Émincer les champignons, j'aime bien faire ça. Même éplucher les carottes, tout ça. Enfin, tout le rituel de préparation où tu prépares tout en amont et où t'incorpores petit à petit et puis où t'as toute la maison qui commence
à sentir,
tu vois. En fait, c'est tout le processus du début à la fin qui. C'est peut-être pas le plat que j'aime le plus manger. Mais c'est sûrement celui que j'aime le plus préparer.
Ouais, ça prend le plus plaisir à préparer.
Tu sais, puis tu parlais des plats que tu fais l'hiver, tu fais un peu bourguignon et le pot au feu, c'est pareil. Dire ça te chauffe la maison. Tu sais, je trouve que c'est pas il y a une chaleur qui est un peu particulière sur ces plats à viande en sauce comme
c'est,
ça.
C'est réconfortant, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je pense que je partirai.
Après, un peu bourguignon, c'est un peu plus long à faire, quoi. Si tu veux le faire mijoter un petit peu.
Tu pars sur 3 heures de cuisson.
Ouais, 3 heures de cuisson.
Comme le pot-au-feu.
Ouais.
C'est la préparation qui est plus longue.
Ouais, mais bon, tu t'en fous
oui.
de temps.
Ah oui, oui.
Après, tu fais ça un dimanche.
Si t'es chez toi, tranquille, t'as 3 heures. Oui, oui, oui.
Franchement, c'est cuisiner le dimanche, moi, c'est mon rituel.
Ouais,
généralement, je cuisine le dimanche. Je fais 4 kilos de bouffe pour toute ma semaine.
Ouais,
ça me dérange pas de manger la même chose tous les jours à midi.
Seul truc.
Le soir après, c'est différent, mais je pars avec une casserole au boulot généralement.
Ouais.
Mais... En n'oubliant pas d'avoir gardé un peu de pastis le samedi soir pour les crevettes du dimanche.
C'est sûr.
Ok, trop bien. Merci messieurs pour cette première partie qui était aussi dense que ce que j'attendais finalement. Ça va être dur de faire tenir l'émission en 1h30. Voilà. Mais tant mieux. C'est un signe. La quantité est signe de qualité parfois. Deuxième partie, on va parler un peu de vous, les garçons. Vous êtes prêts ?
Oui, allons-y.
Du coup, on commence par Max un petit peu. Moi, j'ai envie que tu me racontes comment elle se passe ton arrivée là-bas en Nouvelle-Zélande quand tu arrives chez les champions du monde de tente de mouton.
Ah, bah justement.
Parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai envie que tu me le racontes.
Ah, bah, je suis parti chez un mec qui n'a pas été champion du monde, mais qui a été reconnu pour la tente de mouton. Ouais.
D'accord.
Au niveau régional, justement, en Nouvelle-Zélande.
Ok.
Alors, c'est un gars que je ne connaissais pas, mais que mes parents connaissaient d'avant.
Mmh.
un Néo-Zélandais qui avait, qui a 25 ans, 30 ans, avait pour habitude de faire les saisons de tonte de mouton okay. en Nouvelle-Zélande, en hiver en Nouvelle-Zélande ouais. et en hiver en France.
D'accord.
Donc il faisait les saisons de tonte de mouton, ce qui okay. est assez, assez marrant, je trouve.
Carrément.
Donc, et puis il était passionné de rugby, il allait ouais. voir les matchs de rugby à Brive-Charensac.
D'accord.
Donc un jour il a rencontré mes parents, comme ça, ma mère est américaine.
Ouais.
Donc parler anglais.
De la langue, fois, c'est parti tout de suite.
Ça fait la connexion tout de suite. Ouais. Moi je n'avais jamais vu ce gars, mais ouais. Ma mère avait gardé contact sur Facebook. Donc en lui envoyant un petit message, je lui ai envoyé un petit message un jour et il m'a dit mais.
Ouais, venez, quoi.
Venez chez moi, j'ai du boulot pour vous. C'est son fils qui a repris l'exploitation. Là, okay. Aujourd'hui, il a 65-70 ans.
Okay.
En plus, il devait partir en Belgique. Il a sa belle-fille qui fait du hockey sur gazon en Belgique. Je ne savais pas que ce sport existait. Oui, c'est assez improbable. Ouais.
On est sur de la typique.
Oh, ouais, hockey sur gazon, totalement. Je ne sais pas si ouais. vous connaissez ce sport. Moi, je ne le connaissais pas, d'accord. personnellement.
La série va bientôt sortir.
Ouais, ouais.
Hockey sur gazon maudit.
Ouais, ça, ouais. Et qui est d'ailleurs capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande
d'accord.
de ce sport.
Ouais, donc, d'accord. Donc costaud quoi.
Donc écoute, je suis resté chez lui 3 mois, dont ouais. 2 mois où il n'était pas là.
Ouais, mais vous avez tondu ou pas ? Moi c'est ça que je veux savoir.
J'ai pas tondu le mouton. Je me suis occupé des agneaux, je suis occupé des veaux.
Ah oui, grosse exploitation du coup.
Oh, énorme exploitation. Le gros côté positif pour les moutons en Nouvelle-Zélande, c'est que l'herbe pousse tout le temps. Ils n'ont pas besoin de. Ils peuvent laisser les moutons.
Ouais, c'est en pâturage tout le temps.
Ouais. Mmh. Le gars a 200 hectares pour lui tout seul. Enfin, mmh. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais
c'est énorme.
C'est énorme.
D'accord. Trop bien. Et du coup, là-bas aussi, tu as eu l'occasion de travailler un peu dans les vignes qui
oui,
sont en Nouvelle-Zélande.
Après, mon but était de trouver un travail dans les vignes. Mmh. Au début, j'étais sur l'île Nord. J'avais trouvé un boulot dans une winery, comme on dit là-bas. Malheureusement, il y a eu un petit cyclone qui a un petit peu changé mes plans.
Ouais.
Et puis finalement, Central Otago, la région qui est vraiment tout au sud de la Nouvelle-Zélande, enfin au milieu de l'île sud.
D'accord.
En me renseignant un petit peu, c'est vrai que c'est vraiment une région qui méritait d'être découverte.
Ouais.
Et que j'ai adoré. Donc j'ai trouvé une très bonne winery là-bas où j'ai travaillé pendant. Je suis arrivé pour les vendanges. Et après on a continué. Ils voulaient me garder pour une période indéterminée.
Ouais.
Malheureusement, qui s'est finie pour des projets,
ouais.
d'autres projets que j'avais. Mais je suis resté une petite année là-bas. Mmh. Et, voilà.
Régal.
Génial.
Est-ce que c'est un gros avantage quand tu arrives en tant que Français ayant travaillé dans la vigne
totalement.
Là-bas, ils t'ouvrent les portes en grand.
Totalement. J'imagine. Mais même c'est bête hein, les clichés, hein,
ouais.
ça marche. Hein.
Bah, j'ai vu.
Alors que tu vois l'endroit où j'ai travaillé, j'avais rien à leur apprendre. Hein. C'est eux qui avaient tout à m'apprendre.
Ouais.
Mais forcément, quand tu arrives en tant que Français, il y a forcément ce petit appréhension qui est fort sympathique. Hein, on va pas s'en plaindre.
La légende du vin, quoi.
Oui, tout à fait. La baguette, le croissant, le vin, quoi.
Ce que j'allais dire, moi je suis boulanger de métier.
Mais totalement.
Je suis sur des groupes sur Facebook Boulanger dans le monde. Ouais. Ils recherchent que des boulangers français, ouais. mais même sans expérience. Mmh. Et ils sont prêts à débourser des milliers d'euros pour les payer, même si les gars ont juste un CAP et avec un an d'expérience.
Mais parce que tu sais quel pain, quel goût c'est censé
c'est
avoir.
Ça, c'est
exactement ce que j'allais dire.
Exactement ça. Et alors que les mecs n'ont pas forcément ils ont 20 ans, ils sortent de l'école, ils ont leur CAP et ils peuvent être payés l'équivalent de 5000 dollars en Amérique. Parce que les mecs,
mais ça fait 20 ans qu'ils mangent des croissants, donc ils ont 20 ans d'expérience. De dégustation,
c'est impressionnant. Ouais. Voilà.
Le pain français, je l'ai jamais, retrouvé.
Oui,
ah ouais.
Ouais.
Vraiment, c'est.
On va dire que des choses qui s'en rapprochaient, mais on va dire que la baguette croustillante, légère, le goût.
C'est pas si dur que ça.
Il y avait toujours quelque chose qui manquait.
Mais
autant de croissance, mais il y a toujours quelque chose qui manquait.
Après, tu peux. Notamment les États-Unis ici, tu peux en retrouver dans des grosses villes, New York, etc., etc. Bon, où le pain, le tarif, voilà.
C'est ça.
Tu repars en courant ou à la nage. Hein. Mais c'est vrai que c'est très isolé.
Donc, ouais, c'est des prix exorbitants, quoi.
Oui, c'est ça.
Faut profiter, n'empêche, d'avoir du pain, enfin, c'est pas à dire, hein,
ouais.
mais d'avoir quelque chose comme ça d'artisanal, de bon qui remplit ton estomac à 1 euro. Ouais, c'est pas partout que ça
existe. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte.
On parle du pain, mais la pâtisserie française, c'est exactement pareil. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui font de la pâtisserie comme nous, on sait faire de la pâtisserie.
Bah, tu regardes les Allemands, ils sont fiers de leur Kugloff, là.
Ouais.
Ah non, 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 on va pas partir sur la forêt noire, leur truc au coin trop. Un saut, s'il vous plaît.
Ok. Trop bien. Toi, Fred, du coup, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous expliquer au moins ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ?
Alors,
et comment tu le fais ?
Comment je le fais et qu'est-ce que je fais ? Donc, je suis installé à Chauny. Chez moi, j'ai monté une cuisine et je fais des plats à emporter. Donc sur une offre de plats, on va dire exotiques, d'un peu tous les pays, avec une proposition de 2 plats par semaine, et à côté, selon les demandes particulières, des événements, des gros groupes, on discute, je m'adapte, et je leur fais des propositions. Et donc voilà, je travaille seul. C'est très bien comme cela. Non pas que je sois devenu complètement sauvage là-haut sur mon plateau, mais je préfère ainsi. Et puis je m'amuse énormément, je rends heureux les estomacs et les âmes de mes concitoyens du plateau. Enfin, j'espère. Et c'est chouette. C'est chouette parce que j'ai une totale liberté, bien évidemment, et je m'amuse.
Et j'ai une question là vraiment qui me vient à brûle pour point. Pour les mariages par exemple, si tu peux faire un mariage?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ben là, tu vois, septembre, je fais le brunch pour un ami qui se marie avec 17 plats différents par exemple. Ouais.
Max, si tu connais quelqu'un qui va se marier peut-être bientôt,
tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je vais partir sur le lieu d'abord. Je pense qu'on verra le trait qui est déjà dans le flou. Tout à fait.
Voilà, bon, excuse-moi, je t'ai coupé du coup.
Non.
Donc, tu fais ça donc, là-haut à Chauny sur le plateau. Tu fais ça chez toi, t'as installé une cuisine pro ?
Oui.
D'accord.
Oui, okay. Tout simplement, bien sûr. Et puis bon, après, j'ai l'avantage, je n'ai pas besoin de grosses réserves, de gros stocks, puisque je travaille sur réservation. Donc, la veille à midi pour le lendemain.
Oui, c'est 24 heures avant.
Voilà, exactement. Ouais. Et je fais mes courses et c'est mis en œuvre immédiatement en rentrant. Donc, tu vois, c'est vraiment du direct.
Quoi. Ouais, t'as pas de perte.
Exactement.
Très peu.
Oui, tout à fait.
Comment tu choisis tes produits ? Où est-ce que tu vas les chercher ? Est-ce que ça a une importance d'aller prendre des produits à certains endroits ? Comment est-ce que tu peux les trouver ? Est-ce qu'il a fallu que tu trouves des techniques ou même que toi-même tu te mettes à cultiver certains produits pour les avoir ?
Alors, on va reprendre.
Je fais des questions très courtes, moi. C'est mon avantage.
J'ai bien compris.
Mais ça te laisse le temps de parler, au moins.
Donc, pour les produits. Sur les commerçants de Craponne, sur des maraîchers, évidemment. Je fais beaucoup moi-même, donc c'est-à-dire que, comme je fais une cuisine du monde, là, cette semaine, je faisais des psemène, donc c'est une galette feuilletée marocaine, farcie. Donc je fais tout ce qui est pain, je fais moi-même. Les pâtes, je fais moi-même.
D'accord.
Les nouilles asiatiques aussi.
Ah oui.
Donc, parce que ça, tu n'en trouves pas de la qualité nécessaire. Mmh. Et puis, je ne vends pas très cher, donc je ne peux pas me permettre non plus de péter de l'essence, tu veux, pour descendre au puits, aller à grands frais, où tu trouves quelques produits un peu plus exotiques, oui. Et puis après, j'adapte les recettes. Je choisis un plat du monde et j'adapte avec ce que j'ai, tout en respectant, bien sûr, la saisonnabilité.
Ouais.
Évidemment, et je fais pas mal de conserves aussi. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est une fabrication de A à Z avec les ressources locales. Et pour le maraîchage, j'ai arrêté, j'en faisais pas mal, parce que l'été, donc malheureusement on n'a qu'une saison de maraîchage en Haute-Loire, pour l'instant. On verra comment ça évolue avec le climat. Et je n'avais pas le temps de m'en occuper correctement, même si j'étais en permaculture. Je n'avais pas le temps de m'en occuper avec les repas, avec les commandes, plus le marché le jeudi soir à Chauny. Donc je me garde simplement la partie aromatrare et fleurs comestibles.
D'accord.
Qui me coûterait une fortune si je devais l'acheter. Et puis parce que j'aime cela. Mais je focalise là-dessus.
D'accord.
Où j'ai le temps de m'en occuper convenablement.
Donc c'est quoi, t'as des espèces de petits bacs dans lesquels t'as tes...
Carrément
en terre.
Oui, bien sûr, j'ai un joli petit clos, okay. Clos de mur très protégé, qui réfléchit bien le soleil, donc très bon pour les aromates rares, qui sont quand même assez fragiles,
ouais.
Et puis pour pas mal de fleurs comestibles.
D'accord.
Okay. Donc tu vois là par exemple cette année je vais planter beaucoup d'émérocales. L'émérocale est une plante, une variété jaune qui sert à faire les fleurs de lys séchées qu'on utilise dans la cuisine chinoise. Mm. Parce que ça c'est, il faut aller à Clermont pour en trouver, c'est la misère, et puis j'ai pas envie de passer par internet, non. C'est, voilà, la cuisine c'est tu te débrouilles avec ce que tu as, ça n'empêche pas d'être original en fabriquant, mais pas besoin de courir à droite à gauche ou de commander, de faire venir par internet, ouais. Ça m'intéresse moins ça.
Où est-ce que tu trouves, alors tu vas me répondre, je fais la réponse avant de faire la question, il y a des milliards et des milliards et des milliards de plats, donc j'ai tellement l'embarras du choix, mais ma question c'est comment tu fais pour choisir les plats que tu mets à ta carte, et tu vois, où est-ce que tu vas les chercher,
alors,
est-ce que t'as des...
C'est une prise de tête incommensurable,
ah ouais,
il n'y a que deux plats par semaine, j'y passe un temps fou. Bon, déjà, saisonnabilité. Est-ce que j'aurai le temps aussi, grosse commande, de pouvoir tout préparer exactement. Je suis tellement bête que je pense simple, allez, je le note. Ah ben non, je vais rajouter ça. Donc non, je vais changer. Non, je vais partir sur un autre pays. Ah oui, c'est je rends fou mon épouse avec ça. Généralement, c'est le dernier... fin de mois, j'ai un jour ou deux, mais à me prendre la tête comme un gros débile.
Ouais.
Oui, parce que c'est quand tu... Moi, la cuisine, je suis venu par la culture. Je faisais du journalisme, de la communication, je me suis lancé en autodidacte, et c'est par la culture que je suis venu à la cuisine.
Ouais.
Et je pense, bon, j'avoue, je pense pas mal qu'à ça aussi, entre autres, la culture, bien sûr, mais toujours de la cuisine qui trotte en tête.
D'accord.
Et je suis obligé donc de me réfréner énormément, tellement je voudrais faire de choses et tout balancer. Et donc oui, c'est au bout d'un moment, un coup de tronche sur le mur, allez, on arrête le programme mensuel et on y va. Et puis en même temps, ben, en cours de la semaine, un même plat, il peut changer trois fois aussi.
Ouais.
Oui, j'ai la clientèle qui commence à comprendre. Ils disent oui, merci, ils lâchent la thune, et voilà.
Bon, c'est parti. Okay.
Parce que tu pars sur deux plats par semaine.
Oui.
Ton but, en fait, c'est d'avoir des clients fidélisés qui reviennent toutes les semaines pour avoir un plat différent.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui, puisque c'est la base, c'est de fidéliser, parce que il n'y a pas une énorme population non plus sur le plateau.
Oui.
C'est une activité donc traiteur qui est quelque chose de plaisir, donc avec les budgets qui se resserrent peu ou prou, je vois bien hein, les fluctuations avec l'inflation, etc. Les périodes aussi où c'est sûr que l'hiver hors groupe, hors demande particulière, il y a quand même un peu moins de monde. Les maisons commencent à résidence secondaire, les familles reviennent, mais à partir de Pâques. Oui. Donc, mais oui, c'est vraiment fidélisé. Et puis, j'ai choisi donc de faire cuisine du monde parce que c'est quelque chose qui ne se trouvait pas là où je suis.
D'accord.
Je vais pas leur faire un gratin dauphinois ou un poulet rôti. Ils savent le faire. Ils n'ont pas besoin de moi.
Ça n'a pas d'intérêt.
Donc voilà, tout simplement. Et oui, j'ai réussi petit à petit à faire une petite clientèle. Parce que travaillant seul, donc moins de charges, et puis il m'en faut un peu pour être heureux.
Après, juste pour préciser, toi, tes plats, ils sont en dessous de 15 balles, quoi.
C'est 12 euros.
Ouais, c'est ça.
12 euros la portion.
Ouais. Portion généreuse.
Pour toi, oui, tu peux manger une fois et demie. Mais, voilà, mais on n'est pas si locaux ici, hein.
On reste sur des choses qui sont très, très abordables, en fait, des prix qui sont très abordables, quoi.
12 euros, oui, parce que vraiment, et ça, c'est. Donc, je me bats, hein, mes fournisseurs, je ne vais pas chier, mais hop, tu me fais une petite. Voilà, sur la viande, sur les produits chers, on voit très bien maintenant. Ouais. La viande, le poisson, tu es obligé de privilégier certains morceaux. Mmh. Bon, les travaillants, c'est pas un souci. Mais voilà, moi c'est le plat, c'est 12 euros, tu peux manger par personne deux fois dessus selon l'appétit bien sûr.
Ouais,
mais bah oui, parce que je suis à la campagne, je suis pas là pour j'ai des besoins comme tout le monde, des besoins financiers, mais c'est pas pour ça que je vais gratter. Ça sert à rien, c'est pas du tout l'esprit. Les moineaux vont venir une fois, c'est chiche, je les ai perdus, quoi.
Bah, c'est ça, surtout en campagne, quoi.
Voilà, et puis on habite tellement éloignés les uns des autres que je vais pas leur courir après. quoi qu'avec un disque audio, peut-être.
tu peux faire 250 km. Voilà, <c'est pas> faire.
Mais ouais, bien sûr. Après, c'est. Comment tu... Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu une espèce de processus, alors j'allais dire d'éducation de ta clientèle à une cuisine différente, mais vraiment de les emmener dans ton monde, dans ta découverte de la cuisine, dans la façon dont tu le conçois, finalement?
Oui, bien sûr, parce que déjà, si tu proposes quelque chose de différent, c'est que voilà, tu vas leur apporter des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent. Alors, bien évidemment, on demande souvent de faire un couscous.
Oui.
Ok. Donc, ben, je leur propose 4 couscous différents, 4-5 saksou, hein, en marocain c'est saksou.
Ah, parce que du coup les gars disent, ah bon, il y a plusieurs couscous.
Voilà, ouais. Exactement. Parce que le couscous, comme on connaît en France, le saksou comme on connaît le plat préféré des Français et du Rassemblement National, c'est le couscous légumes, avec un accompagnement. Mais il y a des couscous sucrés, des couscous salés, bien couscous sûr. De poisson, bon, après tu adaptes en végé, etc. etc. Et... donc à part ça, ou qu'on me demande régulièrement, non, les gens, tu sais, même j'ai une clientèle quand même d'un certain âge aussi, ils sont contents de se laisser porter.
Ouais, j'imagine.
Et à partir du moment où ils voient que c'est sincère.
Ouais, c'est ça.
Parce que pour ça que je fais aussi de belles portions, parce que en fait, même si t'es pas forcément très sociable, si tu fais de la cuisine, c'est que t'aimes bien les gens. Donc, voilà, et ça se ressent, ben, les gens le ressentent tout de suite dans le plat.
Ouais.
Ouais, y a pas, le plat, ça triche pas. Ça peut pas tricher.
Ouais.
Quantité, qualité. Que la technique, pour certains, soit pas bonne, ça peut arriver. Mais tu vois quand même, si tu as chez quelqu'un, tu vois qu'il a essayé.
Ah bah,
qu'il a fait quelque chose, des efforts, parce qu'il était content de te voir, de te recevoir.
Ouais. Que tu veux
dire. C'est ça la base. C'est ça la base. Et au niveau professionnel, donc, avec une clientèle, c'est exactement la même chose. Moi, c'est, les gens, c'est comme, voilà, c'est comme si je les invitais à ma table. Même s'ils prennent leur plat. Ils mangent chez eux, mais c'est exactement la même chose.
Ouais.
Et puis, comme j'ai une jolie cour l'été, c'est sympa, ça prend l'apéro.
Ouais, ça s'arrête 5 minutes.
Voilà, c'est le couvige, quoi.
Ouais.
Le couvige à l'apéro.
Et pas d'envie d'avoir un restaurant, d'avoir un établissement, d'avoir un truc comme ça.
Non, c'est, j'en ai pas mal fait.
T'en as eu déjà, ouais.
Et puis, donc, pour le confort familial, je n'ai plus envie tout simplement de travailler en coupure, de reprendre un truc, ou même d'aller bosser pour quelqu'un d'autre.
Ouais,
non, ça, voilà. Après, il y aura toujours des choses à développer, hein, bien évidemment. Comme les marchés, on a un très beau marché à Chamonix le jeudi soir l'été, et donc voilà, adapter des recettes, des produits, mais je me laisse le temps.
Ouais.
Voilà, ça coule nécessairement de source.
Parce que là, pour les gens qui sont du Puy par exemple, comment on fait pour avoir accès à ta bouffe?
C'est compliqué.
On est foutu, hein, il faut monter,
mais si tu montes chez moi, repartir, c'est encore plus compliqué. J'ai une très grande maison, ça va. Pas tout le confort partout,
mais y a
on peut dormir.
Okay.
Voilà.
Et ouais, c'est après peut-être, je sais pas, on peut imaginer qu'un jour tu feras des marchés, tu descends moi à Saint-Paulien, ça fait un peu
par exemple,
route et des choses comme ça.
Après,
quoi.
Ça demande aussi un investissement sur du matériel. Là, chez moi à Chamonix, c'est pratique puisque je fais dans ma cour.
Ouais, et puis les gens viennent, t'as pas de logistique.
Donc tu vois, j'ai ma cuisine, je n'ai pas de camion aménagé, etc. Ouais. etc.
D'accord.
Et donc oui, mais petit à petit.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Je m'appelle l'enfant, c'est mon nom de famille, donc tu vois, j'ai le temps. J'ai le temps.
Ouais. L'enfant. Ok. T'as une question, Gaëtan, ou deux?
Ouais, j'ai une question pour chacun, du coup. On va commencer par toi, Fred, du coup.
Oui.
Tu disais qu'avant, tu étais dans le journalisme. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la cuisine?
Ça va faire 23 ans.
D'accord. Okay.
Voilà, 23 ans, donc, quand je suis arrivé en Haute-Loire.
Et donc, t'as travaillé dans les restaurants et t'as jamais été à ton compte avant cette expérience de traiteur?
Alors, justement, je suis parti, j'habitais Lille, et
d'accord.
avec mon ex-épouse, nous sommes venus en Haute-Loire, et j'ai monté immédiatement une auberge,
d'accord.
une petite auberge entre Langeac et Saugues.
Okay.
Et ensuite, j'ai repris un petit peu de journalisme quand j'ai arrêté, quand nous avons divorcé. Et bon, je vais pas vous raconter ma vie. Et j'ai alterné entre salariat et ou monter quelques des petites structures.
D'accord.
Dont les dernières sur le puits.
Mais ça fait quel temps que t'as qu'à eu une formation de cuisine?
Non.
Non, pas du
tout. Non, complètement autodidacte.
Okay. Ah, ok, d'accord.
Okay. Mais bon, après, là, je vais pas me la péter, c'est pas du tout le propos, mais voilà, comme tu aimes cuisiner, donc.
Oui, c'est ça.
Tu réfléchis un peu, voilà, c'est de la logique. Mmh. Tu te rencardes, à l'époque, Internet n'existait pas trop. Ben non, c'était pratiquement pas du tout, du tout. Je vous parle bien avant du modem qui faisait. Voilà, à 58,80€ les 20 minutes. Et oui, mon grand, c'était comme ça auparavant.
Merci Free, il n'a pas fait grand chose, mais il aura au moins fait ça.
Et donc, oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, par la culture, par l'envie, parce que c'est. J'aime cela. J'aime ça. Ouais, fondamentalement. Après, okay. Ontologiquement, même.
Il y a un truc qui est vrai. Enfin, tu vois, c'est que quand t'aimes cuisiner, tu vois, ben, t'aimes apprendre à cuisiner des nouvelles choses, des nouveaux produits. Bah, t'as un truc. Moi, chez une fois, on m'a filé un filet de bœuf, tu vois. Trop bien, j'ai un filet de bœuf, qu'est-ce que j'en fais? Là, tu vas voir sur internet la meilleure façon de le cuisiner.
Oui, surtout
le cuire à la poêle. Est-ce que tu fais au four? Et puis, tu vois, t'as tout le côté, moi, je trouve, au niveau des couteaux, par exemple. Avant, j'avais pas de couteau, maintenant j'ai des jolis couteaux que j'affûte moi-même parce que j'ai appris à le faire, parce que ça me plaît. Et je trouve que, tu sais, ça appelle ce truc-là, la cuisine et la bouffe de manière générale, quoi.
Tout à fait. T'as besoin d'une casserole en fonte maintenant.
Ouais.
C'est la base.
J'ai besoin d'un fait tout. J'ai besoin d'un fait tout.
Je t'en trouve.
Je veux bien. T'as raison.
Mon père est féru de vide-grenier quand il voit un truc en fonte.
Super. Un Le Creusot, 50 cm. Qui a du rail, quoi. Qui a, voilà, ça a bien culotté.
Oui, mais c'est vrai, t'as raison. Il me manque ça chez moi. Je le dis à ma compagne, mais elle me dit qu'on a déjà une batterie de cuisine suffisamment exceptionnelle pour ce qu'on en fait. Tu sais, des fois, elle râle parce que, tu sais, je fais, par exemple, l'autre fois, on a pris un truc, c'était un truc qui avait déjà été pré-cuisiné, une conserve qu'on a acheté chez un artisan et tout, et j'arrive à la maison et tout, et donc je mets le truc, c'est du poulet basquez, quoi. Et du coup, ben, je mets un peu de farine que je tamise pour épaissir la sauce, et puis je rajoute quand même un peu de poivre, et puis je fais. Et elle me dit, mais c'est quand même incroyable, quoi. On vient d'acheter un truc, il y a un mec qui a cuisiné, et t'es quand même pas foutu de pas le modifier. Je dis, ben, ouais, mais.
Non, c'est pas c'est, oui, mais c'est voilà, parce que tu aimes, tu aimes ontologiquement, quoi. Ouais. Et c'est chouette, c'est chouette. De toute façon, peut-être même un jour on fera ton métier, sait-on jamais.
Je ne pense pas. Il y a d'autres trucs que j'aime.
Un peu plus encore.
J'ai dit je ne pense pas. Mais il y a d'autres trucs que j'aime plus qui tendraient peut-être à devenir mon métier un jour. Mais ça, on en reparlera dans 10 ans. Quand les podcasts me rapporteront du pognon.
Et ma deuxième question, c'était du coup dans le vin. Il y a quoi comme formation? Il y a quoi qui existe?
Alors ça dépend.
Toi concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour
Moi j'ai fait un BTS viticulture et œnologie. Donc c'est vraiment totalement.
C'était un peu engagé déjà sur le vin du coup.
À peu près oui. Mais c'est totalement orienté production entre guillemets.
OK.
Donc après si tu veux faire il y a la branche commerciale, il y a la branche en restaurant pour être sommelier, il y a la branche production, et même dans la branche production, tu peux faire. Généralement, tu rentres par le BTS viticulture et œnologie.
Ok.
Et après, tu peux enchaîner sur plusieurs choses. Si vraiment tu es plus côté vigne, plus côté cave, tu peux.
D'accord. Et tu l'avais fait où ton BTS?
Je l'ai fait à Montpellier.
Ok.
J'ai travaillé à côté du Pic Saint-Loup et j'ai fait juste au-dessus de Montpellier et j'ai fait mon BTS à Montpellier. Ouais.
Ok.
Et du coup, on peut imaginer que, parce qu'on a discuté un peu déjà en dehors, et l'autre fois, tu me disais, quand je te disais, est-ce que tu as eu des cours pour goûter les vins, tu m'expliquais qu'on t'avait quand même plutôt appris à discerner les défauts. Est-ce que c'est un truc qui vient de la production et que justement, sur les commerciaux, on va leur apprendre autre chose?
C'est ça, c'est plus. Ma formation est beaucoup plus orientée sur, reconnaître les défauts et reconnaître les profils du vin et juger l'équilibre d'un vin.
D'accord.
Plus que de, on va dire, d'identifier vraiment. Même si, bien sûr, ça fait partie. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu dans ma culture générale. Mais plus d'identifier les cépages. Et j'ai, dans ma formation, je n'ai pas du tout l'aspect commercial.
D'accord.
Même si c'est quelque chose qui pourrait me manquer et que j'aimerais faire aussi. Mais ce n'est pas vraiment le propos. C'est vraiment de partir de la grappe, de la vigne, déjà, de la terre, de la vigne. ensuite avoir la grappe et la vinifier.
D'accord.
Et
oui, donc c'est au-delà du vin en fait, ça va bien plus loin que ça. On est dans tout ce qui est avant.
Ah comment bien sûr, on fait, bien sûr, mais on travaille. C'est pas que là, déjà le vin ça part de la terre. Déjà. Mm-hmm. Très 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 simple, hein, mais ouais. ça part essentiellement de la terre. Sinon on pourrait faire de la vigne sous serre ou voilà. Il y a tellement de paramètres, mais comme la cuisine, il y a des milliers de paramètres qui vont faire que ton produit sera différent. C'est pour ça que j'aime beaucoup la bière.
Oui, moi aussi.
La grande différence, tu vois, avec la bière, c'est que tu travailles sur quelque chose d'un petit peu plus stérile, entre guillemets. Tu fais du brassage. Mmh. Tu vas arriver à faire ta recette et arriver à sortir le même produit, mais une recette que tu as travaillée, avec des produits que tu as choisis, voilà, et tu vas essayer de sortir un petit peu le même produit à chaque fois.
Et tu changes ton. T'as une vraie transformation dans la bière qui est maîtrisée.
C'est ça. Le vin, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu peux avec les produits œnologiques qu'il y a aujourd'hui, mais c'est pas. Enfin, selon moi, ça va pas vraiment dans le bon sens d'essayer de faire la même chose à chaque fois. Ouais. C'est plus essayer de t'adapter à la matière première. Ça part du raisin d'abord et d'essayer. Tu vois, forcément, tu as envie d'un certain profil, mais tu vas vraiment essayer de faire ton maximum pour tirer le mieux de. Le maximum que tu peux faire, comme la cuisine.
Oui, et puis avec, comme tu dis, ça part de la terre, donc avec la typicité du sol, avec le cépage, que là, tu ta façon de travailler, c'est tu tournes plus vers le vin nature.
Pas forcément, mais oui, forcément, ça rentre dedans, oui.
Voilà, donc, et le fruit, ben, il s'exprime différemment, c'est son premier coin, il s'exprime selon plein de contingences différentes. Mmh. Tu peux donner une petite direction, il y a toujours ce petit côté où il fait son boulot aussi tout seul dans la cuve. Quoi.
C'est la chose que je trouve belle dans le vin, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas.
Ouais.
On ne fait que orienter et essayer d'amener dans un sens.
En fait, c'est une surprise, quoi. Tu déballes un cadeau. Quoi, à la fin.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, après avec l'expérience forcément, tu peux arriver, quelqu'un qui a ses vignes depuis 20 ans sait très bien que cette année ça va peut-être être un petit peu plus dur de faire ça, enfin, tu vois.
Parce que du coup quand on dit qu'il y a des bonnes et des mauvaises années,
oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des années qui produisent plus ou il y a des années où le raisin est meilleur, enfin, tu vois, c'est quand même particulier ce concept de bonnes et mauvaises années.
Bonnes et mauvaises années, ça dépend essentiellement du climat.
D'accord.
Donc... Si tu as eu un été, c'est comme les récoltes, si tu as eu un été de merde, forcément ton produit n'a pas la maturité optimale que tu aurais voulu avoir.
Okay.
Et là, c'est forcément le travail sera plus fait dans la cave, mais si tu es en vin nature, tu n'as pas vraiment de solution. Tu peux essayer d'arranger comme tu peux. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les mauvaises années se voient un petit peu moins parce que on a accès à des produits œnologiques à foison. Tu peux...
Par produits œnologiques, tu entends produits chimiques qu'on met dans le vin?
Pas forcément chimiques, mais oui. Oui.
Enfin, des modifiants.
Ouais, après, il ne faut pas tout mettre dans le même sac, pour moi.
Je sais pas, je pose des questions.
Il y a des produits vraiment de synthèse qui sont lourds. Il y a des sulfites. Moi, j'ai absolument rien contre les sulfites parce que doser, mis intelligemment, et ça peut vraiment faire la différence. Et des sulfites, il y en a partout dans ce qu'on mange. Même si, voilà, il faut s'en servir intelligemment. Il y a des... Voilà, après, t'as un petit peu de tout. C'est à toi de choisir tes armes et de composer avec. Mais disons qu'il y a des produits très lourds qui... avec un produit moyen, avec une matière première moyenne,
il faut un vin excellent derrière.
Tu peux, voilà. Je dirais même avec une mauvaise matière première, tu peux faire un vin correct, jamais excellent. Tu vas jamais pouvoir tricher à ce point.
D'accord.
Mais tu peux, voilà, arranger quand même.
Ok. T'as un petit péché mignon au niveau du vin?
Oh, un petit péché mignon.
Là, tu sens que j'ai touché un truc.
Un milliard.
Mais oui. Mais bon, je veux bien parler de la Nouvelle-Zélande, qui est quand même un climat fantastique. Et je veux dire que le pinot noir de Nouvelle-Zélande est voué à être, je pense, mondialement connu dans quelques années.
D'accord.
Qui est déjà connu
Mais
ouais, c'est là-bas qu'il faut investir.
Ça m'a mis une bonne claque. Si investir, tu peux. Mais ça m'a mis une petite claque au niveau du climat qui est exceptionnel et vraiment sec. Une terre volcanique vraiment qui se rapproche un petit peu d'ici. Ouais. Un différentiel de jour, de température entre le jour et la nuit. Quand tu fais 30 degrés la journée et 10 degrés la nuit, tu dis mais c'est quoi ce pays quoi? Et vraiment, le Pinot Noir de Nouvelle-Zélande, tu peux rarement te tromper.
D'accord. Très bien.
Donc voilà.
Ok. Toi, Fred, tu fais des fois des accords mévins?
Non.
Pas du tout.
Non, parce que. Désolé, mais non, parce que. On n'aura pas. Je ne veux pas imposer quelque chose. Alors, tu peux conseiller.
Ouais.
Donc, moi, je ne le fais que quand sur des groupes ou sur un petit événement, les personnes me le demandent. Mais. Non, parce que tu vois, c'est aussi un truc personnel.
Ouais.
Moi, j'adore le blanc sur le fromage. Tu vois, ça commence à se répandre.
Tout à fait.
Un peu. J'ai pratiquement toujours bu du blanc sur du fromage parce que ça me semble, pour moi, c'est la note qui fonctionne.
Ouais.
Tu vois, surtout après, choisis un blanc selon la typicité du fromage aussi, bien évidemment. Et donc c'est l'accord mévin, c'est moi j'aime pas imposer, pousser, dire ça Toto, ça gars, déjà je suis super fort de l'avoir trouvé, hein, et tu vas goûter quoi t'aimes pas, non mais t'as rien compris, tout simplement faut laisser, peut-être conseiller légèrement, mais laisser les gens aller vers, qu'ils fassent aussi leur propre truc, leurs erreurs aussi, hein, je trouve que c'est important. Oui. C'est important.
Très bien. C'est bon, Gaëtan,
j'ai
fait le tour. Est-ce qu'on a tout dit pour vous? Il y a des choses que vous voulez rajouter un peu?
Oui, moi je voudrais dire, donc je lance un fight, c'est une honte de mettre des lardons dans la truffade. On se réfère à l'épisode 1 de la saison 2.
On est bien d'accord. Non, mais sans déconner, tiens, t'en penses quoi?
Que je te croise pas au puits, c'est un front.
T'en penses quoi?
Ça, c'est une abomination.
On est bien d'accord.
Bon. Je dis, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore vu. Je vais quand même éviter de lui rentrer dedans. T'as vu son gabarit, ouais. Coco, le Golgoth des rues pavées du Puy. Coco, c'est le Spartacus des cougars ponotes, tu vois. Il met des lardons dans la truffade. Non. Bon, après, c'est pas le méchant gars, Coco. Hein, tu vois,
plusieurs fois par semaine. Attention quand même.
Ouais, non, mais plusieurs fois par semaine, tu vois, les invendus périmés là, de sa cuisine, il va les distribuer aux gens dans le besoin. Voilà, c'est le mec seigneur, quoi. Mais les lardons dans la truffade,
non, quoi.
Il bouffe son jambon cru à côté, mais la truffade, non.
Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je fais. Mon petit secret à moi, c'est, tu sais, moi j'achète du jambon, je le coupe moi-même, j'achète pas du jambon tranché. Donc du jambon sec, tu vois, je l'ai à la maison, machin, et en fait je garde toujours un peu de couane de ce qu'on a coupé. Et en fait je tamise le fond de la gamelle avec laquelle je cuisine, de cette graisse-là, et après je l'enlève. Et comme ça il y a un peu le goût,
bien sûr.
Mais il n'y a pas... Les lardons. Voilà. Mon petit secret à moi. Mais
Tu peux rajouter aussi, tu peux me faire rissoler tes pommes de terre avec le sindou aussi.
Oui.
Voilà.
Oui.
Mais qui est super, notamment pour ça. Quoi,
Est-ce que la graisse de canard c'est acceptable ou pas alors?
Sur la truffade.
Sur la truffade, non. Ce n'est pas le. Là où se fait la truffade, ce n'est pas une zone de production de canard.
Bien sûr.
Du cochon.
Dans le cassoulet, par contre, ça doit bien marcher.
La graisse de canard, j'ai toujours un pot dans mon. Et c'est vrai que j'ai tendance à le mettre un peu partout maintenant.
Mais c'est pas bête ça. Moi, j'en ai pas à la maison. Après, j'en achète, tiens.
Après, mais la graisse de canard dans la truffade, tant que tu te fais plaisir.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Bien sûr.
Il n'y a pas d'ayatollah. Non, surtout pas.
C'est. Un resto au puits que vous appréciez et dans lequel vous aimez aller manger, est-ce que c'est possible? Fred, peut-être ne te prononce pas parce que tu es dans l'écosystème. À moins que tu en aies envie, tu fais ce que tu veux.
Non, mais ça fait tellement. Je ne suis plus beaucoup l'actualité. Du tout. Non.
Toi, Max, c'est pareil, ça fait deux ans.
Deux ans que j'ai pas mangé dans un resto, puis j'ai peur de dire une connerie.
Tu peux dire des conneries en endroit à Gate,
le resto où on va assez régulièrement, je dirais 4-5 fois par an avec des amis, c'est l'Ardoise.
Ouais,
l'Ardoise derrière la bibliothèque.
C'est à côté de l'ancien comptoir du Pic.
Voilà, en fait, c'est un petit restaurant où le soir, le menu est à 35€, entrée plat dessert. Mais par contre, c'est cuisiné avec des produits frais, c'est très très bon. Et je trouve, pour moi, que ce soit le midi ou le soir d'ailleurs, le midi, je crois que le menu est à 19€.
Ouais, c'est pas cher. Hein.
Niveau qualité-prix, pour moi, c'est le meilleur du Pic. Pour le prix, voilà, pour moi en tout cas, c'est.
Ok.
C'est ce restaurant que je conseille. J'ai jamais été déçu personnellement.
Moi, j'ai été bouffé au passage il y a pas longtemps.
En bas de la cathédrale.
Ouais. Et j'ai mangé des lentilles. Je me suis dit, tiens, ça fait chier, tu vas dans un resto, puis tu manges des lentilles. Et elles étaient hyper bonnes. Et ça fait plaisir, en fait. Parce que c'est pas facile de faire des lentilles, c'est pas facile de faire des choses. Tu vois ce que tu disais un petit peu, quelque chose qui sort de l'ordinaire avec des produits très ordinaires.
Bien sûr.
Et j'avais trouvé ça vachement bien. Donc, moi, le passage, c'était pas cher non plus, c'était très bien. J'étais très content.
Je connais pas, mais ça a changé il y a pas longtemps.
Je sais pas. C'est la première fois que j'y allais.
Et donc, ça se trouve.
Ça se trouve en dessous de la cathédrale, en dessous de la rue, en face de, il y a un restaurant grec qui doit s'appeler, comment ça s'appelle, la Polonaise,
rue des Tables,
c'est ça, en haut de la rue Raphaël.
Rue Raphaël, ok, pas vu.
Mais avant, c'était pas, ça a changé le passage, ça a changé de propriétaire il y a pas longtemps.
Ok.
Ou alors du coup, ils ont changé le nom du restaurant. Mais
d'accord. Bah en tout cas, moi j'ai été très satisfait.
J'ai jamais mangé.
J'ai même envoyé des gens là-bas qui eux aussi étaient satisfaits, donc c'était pas juste un coup de bol. Donc voilà.
Après, t'as un peu plus loin. Solignac sous Roche, t'as l'Opinatou.
Ouais, ce que je connais pas du tout.
C'est à Solignac sous Roche, donc c'est à peu près d'ici, c'est à 40 minutes.
Okay.
C'est un semi-gastro.
Ok.
Dinguerie.
Ouais, regarde.
Par contre, ouais, c'est 55€, par contre, c'est un 8 plats.
Ouais,
et moi, j'ai mangé l'année dernière, on l'avait offert avec mon frère à mes parents, on y était mangé tous les quatre. On avait mangé du pigeon.
Ah ouais, c'est sympa ça.
Pas souvent. Moi, j'en mange parce que mes parents en ont élevé, donc j'en ai toujours mangé. Mais il y en a qui n'avaient jamais fait que des choses comme ça, un peu qui sortent, mais vraiment bien cuisinées. Après, par contre, là, c'est un budget un peu plus conséquent.
Ouais, après c'est pareil, ça reste, tu vois, tu claques 40 balles par semaine dans des McDo.
Ça, mais voilà,
peut-être qu'il y a deux semaines où tu peux sauter ton McDo et aller payer un vrai resto.
Et puis
quoi.
Le cadre est super joli parce que c'est dans la campagne, la salle est super belle, on a un service de semi-gastro, du coup, avec les serveurs, tout ce qui va avec. C'est vraiment le l'Opinatou, je le conseille aussi largement. Après, voilà, c'est à 40 minutes, à peu près 40-45 minutes du puits.
D'accord. Voilà. Donc c'est une vraie balade, quoi.
Oui.
Ok, très bien. On va passer à la suite de l'émission. Hein, si on a fait le tour, Fred, c'est bon pour toi ?
C'est bon.
Tu en as rajouté ? Superbe, magnifique. Et donc voilà la troisième partie de l'émission, une partie un peu plus ludique. Je vais vous évoquer des faits qui ont eu lieu dans l'actualité ou pas. Et puis on va en parler. Enfin, vous allez voir comment ça tourne. Tout le monde veut prendre sa place. Vous voyez cette émission présentée par Nagui avant et par Jarry aujourd'hui. A reçu en 2019 un candidat un peu particulier. Quelle est la particularité pardon, de cette personne?
Un tueur en série, le grêlé.
Voilà. Donc,
j'ai ruiné le truc, désolé.
Ouais, c'est pas grave.
D'accord, ok.
C'est pas grave. Quand vous savez, vous pouvez dire je sais, mais je laisse deviner les autres.
Bon, voilà, j'apprends le jeu.
Effectivement, j'ai mal expliqué les règles.
C'est vrai. C'est mieux.
Donc le grêlé, effectivement, qui en fait c'est assez marrant parce que ce mec-là il le cherche depuis
des
longtemps,
années, oui. Okay.
Et il le cherchait déjà au moment où il est passé à la télé. Et ça qu'ils ont jamais réussi à l'attraper. Donc en fait ils n'avaient pas de photos, ils n'avaient qu'un portrait robot. Et là c'est il y a pas longtemps qu'ils ont découvert que c'était lui et du coup
qui était passé.
Mais ils l'ont découvert via l'émission.
Non, pas du tout.
Okay. Non, c'est l'enquête
policière qui a abouti à ça.
Et on s'est rendu compte après
qu'il était passé à tout le monde. Voilà.
C'est génial.
Non, mais... Ouais, il y a un côté génial.
C'est quand même.
Ah bah le mec tranquille comme Baptiste quoi.
Ça sert à rien.
Au calme. La meilleure défense, c'est l'attaque quoi.
Demain on aura Xavier Dupont de Ligonnès qui va faire qui veut gagner des millions.
C'est vrai qu'il fait des tutos YouTube pour du bricolage, aménagement extérieur. Okay. Ouais. Donc assez incroyable cette histoire. Il était belge, je crois, ce monsieur, à la base.
D'accord.
Ce qui explique peut-être que vu que c'est moins diffusé en Belgique, il s'est dit ça doit passer.
Les Belges sont bons pour les tueurs en série, il faut
l'expliquer. Ouais, c'est vrai que j'osais pas le dire, mais c'est vrai que.
Tueurs en série pédophilie, ils sont quand même un petit peu de la moyenne. Surtout par rapport, ils ont un vivier qui est quand même un peu restreint.
Faudrait faire un ratio montagne tueurs en série pour.
Ah bah, déjà, rien que Poulvorde avec ça arrivé près de chez vous, c'est bon.
Totalement.
Voilà, ça laisse de la place.
Deuxième question, donc, enfin deuxième sujet plutôt, c'est plutôt, bon, on en a, je l'ai évoqué un peu dehors, Aya Nakamura qui va chanter Edith Piaf aux Jeux Olympiques. C'est pas une question, c'est plutôt, est-ce que vous avez un avis là-dessus, parce que c'est un truc qui divise des Français, quoi.
Alors.
Pas d'avis sur Aya Nakamura, plutôt sur la division des Français. Enfin.
Mais l'un va avec l'autre, de toute façon. Mais tu vois, bon, quand ils m'ont annoncé, au départ, j'étais légèrement circonspect. Parce que je connais pas bien la nénette non plus, hein, ouais. C'est pas.
T'es pas la cible, il faut dire.
Voilà, ouais. Exactement. Là, c'est. Oui. Et puis, en fait, vu l'emballement qu'il y a eu autour de cela, les deux forces, dont le côté obscur de la force, justement, en y réfléchissant bien, il y a eu de très bonnes chroniques aussi sur
France Inter.
Mmh. Oui, tout à fait.
Elles sont très intéressantes.
Et je trouve ça finalement très bien parce que. Ben, en effet, Black, issu de l'immigration, pardon, jeune, elle cartonne dans le monde.
C'est ça, en fait.
Donc, vrai. Pour les Jeux Olympiques, pour cet événement-là, je veux dire, elle coche les cases.
Non, mais en Afrique, c'est une méga star. Mmh. Je veux dire, aux États-Unis, elle a une grosse notoriété aussi. Au niveau de la scène internationale, moi je trouve que c'est très habile comme choix, parce que comme tu dis, représente personne issue de l'immigration, c'est une meuf en plus. Je trouve que c'est aussi important, tu vois, de le souligner, alors sans vouloir faire
du wokisme.
Ouais, du wokisme, c'est ça. mais je trouve que c'est bien aussi, en fait, des fois.
Tout à fait.
Et donc, non, moi, quand j'entends, il aurait fallu mettre Florent Pagny ou Patrick Bruel, sans déconner, quoi.
Et puis, on a eu l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby faisandée, comme c'est pas permis. Ouais. Stop. Et puis voilà, ce sont les Jeux Olympiques. Donc là, c'est une personne qui est dans son époque, qui est une méga star. Et puis surtout, ça fait chier ces putains de fachos, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est du réac. Parce qu'il faut pas oublier les enfants que Maurice Chevalier, bon, je sais pas, vous connaissez peut-être, méga star mondial représentant la France, en France, il s'est fait défoncer au départ. Trop américain pour les bien pensants français. Oui. Edith Piaf s'est fait défoncer, Barbara s'est fait défoncer au début. Tu vois, donc tous ces bien pensants de merde. Allez,
Et puis il y a l'argument, moi, que je trouve choc, c'est les gens qui disent oui, mais elle chante même pas en français, on comprend pas ce qu'elle dit.
Dans ses chansons, elle va chanter Edith Piaf.
Oui, et puis j'ai envie de te dire, quand les autres faisaient de l'argot, que Brel mettait de l'argot dans toutes ses chansons, personne ne disait qu'il parlait pas français. Ouais. Enfin, tu vois, il y a un truc de...
La question que je me posais, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'elle chante du Edith Piaf? Pourquoi elle ne chanterait pas directement ses chansons à elle?
Non, parce que tu vois, avec le rayonnement qu'a eu la môme aux Oscars, tu vois, tout ça, c'est connu aux États-Unis et mondialement, ça reste un symbole de la France qui est mixé, tu vois, c'est un peu un mélange entre modernité et tradition, quelque part.
Voilà. Oui, totalement.
Donc voilà, je pense que c'est ça, mais je trouve pas ça malhabile non plus comme choix, tu vois.
Non, dans le sens où l'événement va être vu, du coup, tu vois, c'est clair que ça va attirer beaucoup de monde.
Oui, et puis bon, elle chante pas français, mais les gamins parlent comment dans les banlieues, les quartiers populaires? Une langue, ça évolue, alors on n'en prend pas tout, certes. Il y a toutes les années, il y a plein de mots qui rentrent dans le dictionnaire, des nouveaux mots, notamment issus de ces nouveaux langages.
Oui.
Je prends ça entre guillemets, entendons bien. Hein. Ça représente des jeunes. Cette nénette, elle représente les jeunes. Des jeunes bien souvent issus de quartiers défavorisés, et c'est plutôt pas mal, quoi. Et même très très bien, parce que c'est bon, quoi. C'est encore à payer pour tous ces vieux boomers là, passons à autre chose.
Et puis comme tu dis, en fait, la langue, elle évolue. Enfin, je veux dire, le terme qui fait que tout le monde utilise maintenant aujourd'hui, à l'époque où c'est sorti, les gens disent qu'est-ce que c'est que ça. Enfin, il y a un truc de, c'est comme si le vieux conisme était intemporel, quoi. Et qu'elle ne disparaissait jamais. Et c'est, je trouve ça terrible. Au risque de moi-même faire du vieux conisme anticipé. Ok, très bien. C'était juste pour réagir un peu à ça, parce que je voulais quand même, moi, appuyer mon avis sur le fait que c'était bien que ce soit elle, en fait. Et c'est bien mieux que ce soit elle que Bruel, par exemple.
Oui.
Qui ça, représente ça, justement sûr, tout l'inverse, et voir une prise de. Voilà.
Position.
Donc,
Tu vois, ça aurait été Bruel, j'aurais peut-être pas forcément regardé.
Aya Nakamura, c'est vrai que. Ouais. Elle fait des.
Elle fait débat.
Ouais, c'est bien. Mais moi, j'aime bien. Je suis content. Et je suis content qu'elle reste. Enfin, j'espère qu'elle va rester.
Bon,
voilà. C'est tout. C'était tout pour moi. Tout la chronique Aya Nakamura. c'est bon.
T'as les droits sur une chanson, là?
Oh, jaja. Rasmus Munch.
Pardon ?
Rasmus Munch. C'est Rasmus... une personne.
Rasmus Munch.
Oui.
D'accord.
C'est une personne. Qui a fait parler d'elle un petit peu, voilà. Pas plus tard que, on est le combien ? Alors, l'enregistrement, au jour de l'enregistrement ?
18.
On est le 18, donc il y a 3 jours, a fait parler de lui, c'est un monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, lui ?
Nouvelle technologie ?
Pas du tout.
Du tout.
Quoique. Mais non, si je vous dis oui, ça va vous mettre sur une fausse piste.
Ok.
Donc non.
C'est une célébrité du coup, enfin, non, pas vraiment.
C'est... Il est connu, mais je dirais pas que c'est une célébrité.
Il est connu depuis longtemps ou juste depuis ces 3 jours ?
Je sais pas.
Je sais pas, ok.
Mais de quel pays ?
Ah, il est danois.
Il est danois, d'accord.
Il a créé, quelque chose ?
Non.
Il a pas créé un objet ?
Non, pas du tout.
Il a, inventeur. Il a fait un buzz, il a tapé du situationnisme.
Il a proposé quelque chose d'étonnant. Voilà, il a prévu de faire quelque chose d'étonnant.
Mais lui-même ou proposer quelque chose dans l'écologie dans...
Non, lui-même. Lui-même, il va proposer lui-même. Un service.
Lui-même va proposer un service.
C'est ça.
D'accord. Au Danois ou au monde entier ?
Au monde entier, parce au que c'est entier. Un service qui coûte... au bas mot, j'ai les prix hein, pour participer à la chose là, 450 000 euros.
450 000 euros.
Voilà. Et il y aura 6 places.
Donc navette spatiale.
Ouais, d'accord.
Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace ? C'est ça la question. Parce qu'il propose de faire quelque chose dans l'espace.
Une touze intersidérale.
J'ai peur de la réponse.
Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est pas une partie.
Alors, que va-t-il proposer pour 6 personnes
Un repas dans l'espace.
Exactement, un repas gastronomique.
Bravo.
Dans l'espace, dans une petite navette avec un peu d'apesanteur et essayer de jouer avec tout ça. Voilà. Okay. Donc, c'est la nouvelle lubie. De cette personne qui est 450 000 euros quand même pour aller bouffer dans l'espace. Vous le feriez, vous ?
Non, je pense pas. Franchement même en étant milliardaire, je pense pas.
Oui, c'est
pas...
ça, en imaginant qu'on ait les moyens de le faire.
Non, parce que j'aime pas ce que font les autres à manger. Vrai. Mais je savais pas que Thomas Pesquet s'était recyclé en cuisinier.
Ouais, si. C'est Thomas Pesquet d'ailleurs maintenant.
Pas mal. Bim.
Mais non. T'aimes pas ce que les autres font ? Bon, non, c'est pas vrai.
Mais non, ce n'est pas vrai.
Évidemment. Si, mais moi, je marche en plus. À chaque fois, tu sais. Puis t'es là, ils disent ah bon ?
Non, mais franchement, aller dans l'espace, oui, pourquoi pas. Après, pour un repas, je vois pas.
Pour bouffer, ça pas d'intérêt.
Je vois pas d'intérêt non plus, en fait.
Voilà. C'est juste pour dire j'y étais, oh, super. Ouais. Et ben, mets ta thune ailleurs et radique la fin dans le monde et fais pas chier.
Ouais, c'est ça. Très bien. Super. On va en Louisiane, aux États-Unis. Vous connaissez la Louisiane, les États-Unis ? À peu près.
Peu près, oui, ça va, oui, on n'est pas culturé.
À peu près.
On n'est pas fan d'Ariel Nakamura, on est la culture.
Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Orléans, vous voyez ce que c'est ? À peu près.
Oui.
Le poste de police doit déménager. Pour quelle raison ?
Pour quelle raison doit-il déménager ? Allez, je lance pour essayer de... Hop, glissement, pas de glissement de terrain, pas de problème d'ouragan.
Suite à l'ouragan Katrina qui est passé il y a quelques années, ils ont un problème.
Ils ont découvert en dessous quelque chose.
Non.
Trop grosse prise au vent.
Non. C'est pas...
Je sais pas.
Ils ont un problème d'invasion, on va dire.
D'invasion.
Oui, ils sont envahis.
Non, mais les Mexicains, ils passent la frontière au Texas, ils prennent pas beaucoup de bateaux.
Ça fait moins d'un.
Non, c'est pas des Mexicains.
D'invasion, mais d'insectes ?
Non, pas d'insectes, mais d'un petit animal.
Alligator ?
Non, petit.
Les chauves-souris ?
Sans ailes ?
Les souris.
Voilà. Mais le problème, en fait, c'est que ces rats, ils viennent et ils ont un comportement problématique qui les pousse à revenir régulièrement.
Ah, réserve de drogue.
Ouais, c'est ça.
Ils sont trouvés le truc.
Ils sont accros à la drogue. Et du coup, ils viennent et ils défoncent les réserves de drogue. Et du coup,
c'est la fête à Jerry, là.
Ils arrivent pas à les arrêter.
Les marsupiaux complètement foncés, tout blancs. On a trouvé une nouvelle race de marsupial.
Ils ont fait venir le gouverneur, parce que le gouverneur a dit, mais une invasion, vous faites venir un mec. Mais venez voir l'état des bestiaux. Vous allez me dire ce qu'on en fait, quoi. Donc, a priori, ils sont vraiment, vraiment emmerdés.
D'accord.
parce que j'imagine qu'Arras ou méthamphétamine, ça doit être vénère. Ouais,
ça doit pas être vénère. Et puis, tu sais, vu qu'il cumule tout parce qu'il tape un peu dans tous les papiers, ça doit faire des cocktails.
Purée. Ah bah ça, je veux bien en cuisiner. Allez, appelle un coup de FedEx, hop.
Mais après, je sais pas, à manger, ça doit être. Très bien. Bah bravo. Donc du coup, et ce week-end a été battu un record à Saint-Etienne, pas loin de chez nous.
Ah
oui.
Ah, je sais.
Vous savez, vous l'avez tous les trois,
je pense.
La plus grosse raclette de l'histoire. Une tonne de patates, 620 kg de fromage, 350 kg de charcuterie pour 1200 personnes. C'est chouette.
Oui, organisé par Chicandier, un de ses collègues. Ouais.
C'est ça.
C'est bien, puis les gens avaient l'air contents.
Oui, ça avait l'air d'être vraiment bon enfant. Enfin, un truc très simple, très. Alors, probablement un petit peu.
Il n'y avait pas du tout de buvette, c'est faux. C'est... Jamais, surtout avec Chicandier, il n'y a jamais de buvette.
Ils n'ont pas communiqué sur le nombre de litres de vin.
Ouais, c'est ça.
Ça doit être énorme.
Et question bête, mais matériellement, comment ils ont fait pour la raclette ?
Alors, autant de personnes. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient des petits appareils à raclette individuels, c'est qu'ils chauffent à la bougie.
Ouais. Ah, ok, d'accord.
Et du coup, en fait, t'avais ça à côté
de chaque assiette. Une brigade monstrueuse, bien sûr. Tout était préparé pour les pommes de terre envoyées chaud. Après, bon, c'est de la charcuterie. Et t'avais, oui, en effet, ton petit réchaud portatif pour le fromage.
Oh, sympa.
Avec Xavier Pincemin et César Trois Gros qui avaient fait les sélections de charcuterie et tout ça. Donc a priori c'est envoyé quoi.
Ok.
Puis avec un peu de chaud et tout. A priori ils reconduisent pour l'année prochaine. Ils veulent essayer de battre leur propre record.
Doubler, oui déjà.
Ouais.
Tu sais où ils ont fait ça, Saint-Etienne?
Je sais pas. Je sais pas du tout. Mm-hmm. Mais moi j'aurais bien aimé y aller, je pense, tu vois. J'ai trouvé personne pour y aller.
J'avais un collègue qui avait gagné des places. Il n'a pas pu y aller parce qu'il avait le salon de l'habitat où il participait à Saint-Paulien. Et du coup, il n'a pas pu y aller, mais il avait gagné des places en VIP à la table de Chicandier.
Non, de Dieu.
Mais du coup, il n'a pas pu y aller.
Là, ça doit en payer des saucisses.
Ouais, je pense que.
Là, ça doit y aller. Ça doit être gras là-bas.
Je pense que.
Il y a quelques taches sur la nappe, la fin du repas.
Ouais, normalement.
Il est marrant, Chicandier.
Alors que, bon, lui, par contre, ne boit plus. Hein. Il a développé sa cirrhose.
Ouais.
Donc,
Il boit plus ?
Non.
On
ne sait pas. En tout cas, il communique sur le fait qu'il ne boit plus. Ça, je l'ai vu chez Faustine Bollard.
J'avais regardé moi aussi, j'avais regardé les replays.
Qui, elle, par contre, boit.
Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. En même temps, t'as vu son mec Son mec, il écrit des romans. C'est Maxime Chatham. Il écrit des trucs hardcore, romans épouvantes, tueurs en série et tout.
D'accord.
C'est un maboule. Et marrant, ils sont vraiment dissonants l'un et l'autre.
Complètement.
Elle fait pleurer les vieilles et lui il fait flipper. Donc, mais c'est rigolo. Petit tour, il y a eu les Oscars là récemment qui ont encensé Barbie, Oppenheimer et tout ce qui s'ensuit.
Anatomie d'une chute.
D'une chute qui a été récompensée. Vous l'avez vu, Anatomie d'une chute?
Non. Moi je l'ai vu,
Tu l'as vu toi?
Je l'ai vu récemment.
T'es été jusqu'au bout?
Oui, je suis allé jusqu'au bout. Je l'ai regardé en 2-3 fois et je suis allé jusqu'au bout.
Alors, sans spoil?
Sans spoil,
à ton avis, c'est elle ou pas? Super, j'adore ce film.
C'est le grillé.
Non, mais tout le long du film,
Ouais, mais moi je veux savoir ton avis.
Pour moi, oui.
D'accord.
Parce que pas toi?
Sans spoil, c'est compliqué. À mon avis, oui, mais pas fait exprès.
Ah oui.
Tu vois?
Ouais.
Voilà.
Après, regardez-le par contre. Ouais. C'est un très très bon film.
Les scènes de tribunal, moi ça fait longtemps que j'avais pas vu une scène de tribunal qui m'accrochait. Parce que c'est souvent chiant à mourir.
Oui, il est en huis clos.
Et là, putain, ça travaille quoi. L'avocat de la le mec qui joue l'avocat de la défense là. J'ai cru, mais un truc de ouf. Non, très bien, super. Mais du coup, je voulais vous demander un peu, est-ce que vous sauriez savoir un peu quels sont les films qui ont reçu le plus d'Oscars dans l'histoire du cinéma?
J'ai envie de dire Titanic.
Titanic.
Les 10 commandements.
Avatar.
Alors, Titanic, top 3. Troisième.
Troisième.
Okay. Avatar, je dirais.
Non, pas du tout.
Les 10 commandements?
Pas du tout. Non plus. Pas dans le top.
Les 9 commandements.
Les 9 commandements, peut-être.
Les 11, je pense pas.
Les 11 commandements,
je suis pas sûr.
C'est artiste?
Non.
Alors, on est sur des gros films. Alors,
on est sur des films
américains.
C'est américain.
Ouais, que vous avez vu.
Ouais.
Le premier, vous l'avez vu, c'est sûr.
C'est la période.
Le deuxième, je suis moins sûr.
Vol au-dessus d'un coucou.
Non.
Forrest Gump.
Non.
Ah.
Le premier, le
numéro 1,
2003, il est sorti. 11 Oscars.
2003.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc genre Armageddon ou non?
Non, non, mais pensez...
Classique, quoi, enfin...
Oui, quelle veine.
Fantasy.
Ah, Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anneaux, Retour du Roi.
Ah bah oui,
avec 11 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure musique, meilleure chanson originale, meilleur décor, meilleur costume, meilleur
effet. Ils ont donné tous les Oscars pour le troisième film, pour la trilogie.
Mais c'était bien parce que ça montre quand même que ça a eu un vrai, un vrai impact. Je trouve que c'était chouette. Le deuxième, très dur à trouver, film de 1957, qui est un classique, paraît-il. Moi, je ne l'ai pas vu.
Là, attends, tu donnes au moins un acteur.
Un péplum.
Eh bien, Ben Hur.
Ouais, absolument, c'est Ben Hur. Qui est. Alors, il est derrière.
Il y a eu un remake refait avec Coco, dans le rôle de Ben Hur. Le Coco Dupuis.
Le tu Coco Dupuis, non.
Le remake de Ben Hur avec Coco. Non.
Non. Le Spartacus des Cougars, c'est ça,
c'est ça. Cougar, Ponote.
Et du coup, le troisième, oui, effectivement, c'est Titanic. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleure photographie. Enfin, ils ont tous eu ça. Hein. À noter que Ben Hur est le seul à avoir meilleur acteur et meilleur acteur dans un second rôle, en plus de meilleur film. Donc c'est le seul où il y a un acteur qui s'est vraiment, vraiment dénoté. Après les autres, ils sont compliqués parce que West Side Story en quatrième.
Bien sûr.
Okay, ouais.
Le patient anglais. Mm-hmm. Que je n'ai pas vu, je n'ai jamais entendu parler de ce film.
Non.
Tu connais, toi?
Bah, vu mon grand âge, pardon, mon âge canonique, oui, un temps soit peu, oui.
Ouais, non, jamais entendu parler. Cabaret, bien sûr, de 72. Mm-hmm. Slumdog Millionnaire.
Ouais, oui. J'aurais dit que Forrest Gump était quand même très bien positionné. Mais...
Non, il est pas dans mon top 15, là.
Ok.
Et après, on va sur Gandhi, de 82, que j'ai jamais vu. Amadeus, bien sûr. Et en 10e position, My Fair Lady. Okay. Voilà. Pour les grosso modo les films les plus oscarisés de l'histoire du cinéma, quoi. Voilà, c'est la fin de cette émission haute en couleur. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé. Est-ce qu'on peut vous, si vous avez envie de qu'on vous retrouve à des endroits, de communiquer sur des réseaux sociaux, des choses comme ça? Des fois, il y a des gens qui disent, vous pouvez me trouver chez moi.
Vous pouvez me trouver chez moi, à Bréchard-en-Sac. Si vous me voyez sur la terrasse d'un bar, n'hésitez pas
à vous arrêter. C'est ça. Toi, Gaëtan, pareil.
Pareil, on peut me retrouver souvent dans au Bibok le jeudi soir.
Au Bibok le jeudi soir.
À Bréchard-en-Sac.
Avec le fameux club du jeudi.
Voilà, par exemple.
Des jeunes entrepreneurs bien actifs. Ok. Toi, Fred.
Et moi, bon, c'est toujours un peu compliqué pour les poneaux, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais oui, je connais tout le monde à venir juillet-août. Le jeudi soir au marché de producteurs de Chomely.
D'accord.
C'est ravissant, très sympa, très convivial.
Le marché est cool. Genre ça peut très être cool. La balade.
C'est surtout on installe donc plein de tables, de chaises.
D'accord.
Les gens achètent aux producteurs et pique-nique général.
Génial.
Magnifique.
Sur une belle petite, très belle petite place.
Trop bien.
Vraiment, vraiment, c'est un joli marché. Donc, et comme ça, vous aurez un signe honneur de me retrouver.
Ok, trop bien. Pour les gens qui veulent savoir, sinon, je crois que tu es sur Facebook.
Sur Facebook,
et sur Instagram aussi, où il y a les menus.
Oui, voilà, je communique essentiellement les menus.
Au moins, les gens savent ce qu'ils peuvent venir chercher.
Tout à fait.
Menu mensuel, du coup, qui change toutes les semaines de plat.
Exactement.
À chaque fois, avec variation du chef, si on lui demande gentiment.
Oui, et puis mariage, enterrement, voilà.
Et aussi les divorces.
Surtout, oui.
Et surtout les divorces. Très bien. Eh ben super. Puis nous, on se retrouve jeudi dans deux semaines, donc 6h du matin. Vous pouvez écouter le podcast sur tout ce qui finit par musique, tout ce qui finit par podcast, YouTube aussi, Deezer, le concurrent Deezer, Spotify. Google Podcast pour nous écouter gratuitement et sans coupure. Tiens, je le redis, parce que des fois les gens cherchent comment nous écouter sans coupure. C'est Google Podcast, tu vas dessus, c'est gratos, tu peux verrouiller ton téléphone. C'est pas mal, ils ont beaucoup de podcasts, donc je leur fais un peu de pub, même si Google, bon. Voilà.
Je pense que Google a besoin de ta pub.
Je pense que là,
il galère un peu en ce moment.
Ah, mais là, je crois. Attendez, c'est les avocats de Google qui m'appellent. je suis emmerdé. Non, mais voilà. Donc,
pourtant, avec les 500 000 auditeurs par podcast, ça devrait.
Ça devrait les calmer.
Peut-être moyen.
Si, bah tiens, grosse annonce tant que je suis là. Le 1er juin, vous pourrez nous retrouver. On communiquera sur le lieu un peu plus tard. Mais vous pouvez désormais, d'ores et déjà, réserver votre samedi pour venir. On va faire un événement autour du podcast, un festival un petit peu autour du podcast, avec festival gratos, bien sûr, avec possibilité d'enregistrer une émission. On fera des émissions en live. Il y a des gens qui font des podcasts un peu partout en France qui vont venir. C'est axé autour du podcast et du territoire, comment mettre en valeur les territoires à travers le podcast. Et donc c'est le week-end du 1er juin. Et donc réservez votre week-end, vous pourrez venir nous voir, il y aura une humoriste qui viendra aussi et un groupe de musique en accès, enfin toujours gratuit pour le plus grand nombre. On va essayer de faire un truc un peu familial, donc et il y aura une buvette et des hot dogs.
Et ça se déroulera,
ça se, on va communiquer sur le lieu un peu plus tard. C'est, on est encore en train de mettre en place, on a calé la date, mais le lieu veut communiquer aussi de son côté, enfin on est en train de mettre en place
craqué,
tout ça.
Le budget était craqué par l'humoriste, donc voilà, il faut une solution de reprise maintenant.
Dites donc. on rigole. Non mais ça coûte super, non mais c'est, pourtant c'est pas un événement qui coûte beaucoup d'argent, parce que tout le monde, pour le coup, l'humoriste effectivement coûte cher, mais elle fait un gros tarot sur sa prestation. Le groupe de musique aussi fait un gros tarot sur sa prestation, enfin tout le monde met vraiment de la bonne volonté à ça, donc c'est grave cool, et on aimerait bien que ça marche pour pouvoir faire un peu plus grand l'année prochaine et un peu plus cool et faire venir d'autres monde. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le 1er juin, ça se passera au Puy-en-Velay, ce sera pour tout le monde, pour toute la famille, et voilà.
Bravo.
Super, merci à tous.
Merci de nous avoir accueillis.
Ouais, ben on s'est régalé. Merci Gaëtan d'avoir host.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Et puis ben à la prochaine. Ah oui, non, FM 43 tous les mardis de 10h à midi. On est là aussi. Donc venez nous retrouver. Merci beaucoup. Bye bye. Est-ce que Babaï c'est pas un peu ringard comme, comme mot de la fin?
Avec un bonsoir.